Humpty Dumpty Acid Tongue. Et donc manifestement une histoire de Hold Me In Your Hand. Comment ça va, les amis? Bien, je me concentre. Les nuits sont courtes en ce moment. J'essaie d'articuler pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire. Le café, l'ami café n'est pas loin, donc ça devrait bien se passer. Ça va bien, vous? Je remercie les petits subs du matin. Merci tout à l'heure à Frisketosaur, joli pseudo, pour le 3e mois d'abonnement. Maud, merci. Maud Guillaume pour le 12e mois, un an. Tous les deux à l'instant, et également Groumph pour un 12e mois d'abonnement, un an de café. Exactement, le café n'est jamais loin, café au lait avec un tout petit peu de sucre. J'essaie de diminuer le sucre de mon côté. Ça va, vous? Oh, je vois des petits messages sympas. Comment Samuel, comment le petit, coucou Samuel, me dit, est-ce que le petit va mieux? Et un peu plus tôt tout à l'heure, je voyais des gens qui me demandaient des nouvelles de Solal dans le chat, alors que je venais tout juste de lancer le stream. C'est Isma, oui, Isma. Isma, on a déjà échangé et tu m'as dit comment je devais prononcer ton pseudo. C'est Ismaël Mekilri. Ismaël Mekilri. Bref, je me demandais si cela allait mieux puisque le stream était un petit peu décousu hier. Solal, le petit dernier, 2 ans et demi, est un peu malade en ce moment. On a tous chopé le même virus à la maison. A priori, c'est pas le Covid, on s'est testé, mais voilà. Un petit coup de froid, le nez, la gorge, chouchou, un peu le ventre aussi. Donc, il était avec moi. Je l'ai couché sur le petit canapé juste à côté là. Et donc, il fallait le gérer. À un moment, j'ai éteint les lumières pour qu'il soit bien. J'ai éteint la lumière pour les journaux, c'était un peu particulier. Donc, pardon pour ce stream un petit peu brouillon hier. Voilà. Mais Solal va un peu mieux. Voilà. Mais il n'est pas impossible que, comme il est un peu fatigué en ce moment, qu'il nous rejoigne malgré tout. Donc, j'ai organisé mon setup d'accueil d'enfants en bas âge un peu malades. Et donc, j'ai mis une petite poussette à côté de moi, là, qui est ma poussette de streaming pour ceux qui suivent mes petits live IRL dans les musées. Il y en a un qui arrive bientôt d'ailleurs, on va aller dans une ville qui n'est pas Paris pour un nouveau stream dans un musée, dans pas longtemps, avec l'ami Joe, avec ma fameuse poussette de stream que j'ai inventée quand même. Et la poussette de stream, elle est là. Sans caméra, sans micro, sans batterie, sans clé 4G, etc. Donc elle est toute belle, toute neuve. Elle n'a visité pour l'instant que le Louvre, que le musée d'Orsay, la fondation Louis Vuitton. Et donc elle est prête à accueillir Solal ici pour qu'il puisse se reposer à côté de moi si besoin. Voilà. Merci Black Année à l'instant pour le 11e mois. Lupix pour le 4e mois. Bonne rentrée universitaire à toi. Barbie Douléa, merci pour le 8e mois. Grishka, Jo, merci pour les beats. C'est hyper gentil. Je vous lis un petit peu et on démarre. Et puis j'ai une question à vous poser, parce que c'est vous qui faites un peu le menu ce matin. À savoir, est-ce que vous voulez qu'on reparle un peu du The Event, des aventures de The Event, de ce bel épisode et éventuellement des petites polémiques qu'il y a autour. On en a beaucoup parlé hier. On en reparle si vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez. Sinon, j'ai plein d'articles évidemment sur l'actualité à vous lire. Lupix. Bonne rentrée, ça c'est cool. Rentrée de quoi? Tu rentres en quoi? Le Pix, rentrée universitaire de quoi? Harmonie est avec nous. Harmonie, oui, j'ai vu toi aussi, tu faisais ta rentrée, j'ai vu ça, je voulais te laisser un petit message, j'ai pas trouvé le temps encore. Harmonie qui est l'une de nos modos qui est avec nous ce matin. Je suis en cours, alors je parlerai pas trop, mais j'écoute. Attends, Harmonie, j'espère que tu modères pas, que tu écoutes d'une oreille distraite ce stream, pourquoi pas, mais j'espère que tu ne vas pas modérer quand même, sinon l'attention que tu vas porter à ton cours, elle pose question quand même. Bonne rentrée à toi aussi, de vive voix, puisque je voulais t'écrire un petit message. On a une petite boucle de DM sur Twitter avec mes amis Modo. On échange assez régulièrement sur ce qu'on fait ici. Je remercie Francis, Gugo72, Harmonie, donc Julo est là, et Petit Dragon Vert de Rage, et Takayov, je te vois aussi. Ami modérateur, sans vous, cette chaîne serait beaucoup moins chill. Bon, même si globalement, j'ai quand même, à mon avis, une des communes les plus tranquilles de l'univers intergalactique. La Pépé, merci pour le Prime. Et la Pépé, ça me fait penser à un truc, mais je sais pas à quoi. Alors, ouais, je vous lis un petit peu parce que ça me met de bonne humeur. Bonjour Samuel, j'ai un concours pour l'entrée en médecine aujourd'hui. Wish me luck, Achille, on t'envoie plein de force. C'est chaud, médecine, quoi. Peux-tu déjà nous en dire un peu plus sur le prochain live musée Lupix? Je peux te dire que ce n'est pas à Paris. Je peux te dire que j'ai déjà réservé les billets de train et la nuit d'hôtel, à la fois pour nos repérages, parce qu'on va aller avec Joe sur place pour voir si, en termes de son, lumière, qualité de connexion, on peut vous faire un joli stream de 2h30, 3h dans ce musée, dans la ville de suspense. Voilà. Donc tout est prêt, on va aller dans quelques jours en déplacement sur place, TGV et tout, et tout, et tout. Ce sera un vendredi, juste avant d'ailleurs l'hebdo Étienne, il faudra revenir à temps pour le live de 20h. Et puis, genre une semaine après, je vais vous annoncer ça bientôt parce que ça se rapproche, on aura ce live dans un musée, donc en région, j'aime pas le mot province, en région, dans une ville qui n'est pas Paris. Surprise, surprise. À quand la liste des invités de vendredi? Janvier, là, nous pose une question sur l'hebdo Étienne. Vous savez, je suis très fier de ce nouveau rendez-vous. Tous les vendredis soirs, 20h, j'invite trois personnes à la maison, des passionnés d'actu. Ça peut être des journalistes, mais ça peut être pas forcément des journalistes. En l'occurrence, c'est trois journalistes. Là, vendredi, j'annonce quel jour on est. Mardi, peut-être aujourd'hui. Il faut que je fasse mon petit visuel. Vous savez, tout est fait maison ici. Donc, j'annonce aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que c'est trois journalistes, qu'on a deux femmes et un garçon. Voilà, on a, je peux déjà vous dire, a priori quelqu'un de France Inter, France 5, quelqu'un de France Info, hein, c'est ma maison où je suis en ce moment, le matin, j'espère que vous regardez, sinon ça va barder, et puis quelqu'un peut-être de Libération. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous confirme ça très très vite. En fait, j'attends une confirmation, et je vous fais le visuel. Lupix, donc deuxième année en histoire de l'art, on posait la question. question de quelle rentrée universitaire c'est fait. Ok. Bonjour à tous, j'ai fait le marathon des châteaux du Médoc samedi. Dur, dur, me dit Poetus. Joli marathon. Je l'ai fait deux fois, je crois. On parle du même. Toi, c'est le marathon des châteaux du Médoc et moi, c'était le marathon du Médoc. Est-ce qu'on parle du même? Le mien passait dans les cours des châteaux et à chaque ravitaillement, il y avait du vin à boire. Peut-être pas obligé. Voilà, le t-shirt officiel de ce marathon du Médoc, c'est le marathon le plus long du monde. Et on voit un coureur qui zigzague à mort parce que passer les premiers ravitaux, forcément, on court un peu moins droit. Pour le coup, moi, j'ai été petit joueur, j'ai pas bu du vin au ravitaillement, sauf au 40e kilomètre. Mais j'ai des copains qui ont sérieusement éclusé. C'était un peu la fête. Tout le monde est déguisé dans ce marathon. Il y a des chars, on porte des chars. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si on parle du même. Mademoiselle Padma, ceci est mon premier message sur Twitch. Contente d'être là. On t'accueille chaleureusement. Clamakin, j'ai vu ta blague, elle est très bonne. CD Blade, j'avais pas vu par contre. Merci pour le sub, le 9e mois. Anne, merci pour le 2e mois. Bimbo Jet, ça c'est un pseudo. Merci pour le 7e mois d'abonnement. Merci de votre soutien, vous êtes super cool. À quand la prochaine balade en poussette dans les rues de Paris? Je fais un peu moins de sport en ce moment puisque j'ai totalement dédié mon temps libre au stream. On peut pas tout faire. Louvre, ah, ça essaie de deviner la ville. Est-ce que c'est le Louvre-Lens? Est-ce que c'est Pompidou-Metz? Est-ce que... Alors, je n'y vais pas en jet privé. J'y vais en train. J'y vais en train. En TGV. Écologie. Il y a qu'un marathon du Médoc? Ok. Parce que la personne disait marathon du château du Médoc. Et je crois que le nom officiel, c'est marathon du Médoc. C'est pour ça que je posais la question. C'est le même Poitus? Ok, on parle du même. 20 ravitaillements, j'en ai raté aucun. Ah, donc tu as bu 20 fois du vin. Eh ben, chapeau, parce que moi... Je n'aurais pas pu. Oh, il y a quelqu'un qui a écrit le marathon pour Poivreau. C'est drôle. Et ça a été censuré. Ça a été supprimé par un de mes gentils modos. Eh hey, les gars, Poivreau. Ah non. Hey, cool. Poivreau, le marathon pour Poivreau, c'est drôle. Ça n'est pas vrai, puisque vous savez, pour courir un marathon, faut être plutôt en bonne santé, en bonne forme. Et donc, il n'y a pas trop de Poivreau dans un peloton de marathon. Donc ça va, le trait d'humour, ça va en vrai. Non, et cool. Cool. On va supprimer les trucs vraiment méchants, quoi. C'est pas méchant du tout, ça. Hein? Et certains finissent ce marathon dans un état qui est quand même un petit peu particulier. J'adore. Ah, ça me fait rire. Très bonne blague de gros de notes. Le marathon du Beaujolais est du même tonneau. Je valide. Ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est beau. Palpou nous parle de médecine, rentrée en année de thèse pour moi, bravo. En gros, 3 mois pour passer la thèse, puis je m'installe en tant que généraliste en désert médical en 2023, il en faut. Bim, bravo. C'est un truc dont je parle souvent. J'ai supprimé parce que ça fait un lien. Ah, il y avait un lien. Ok. C'était pas une histoire d'humour, c'est une histoire de lien. Merci Captain McBernick, merci beaucoup. Il y avait un lien caché dans la phrase, mais vous êtes retors. Bravo pour ta vigilance, Captain McBernick. Vous êtes retors, les viewers, c'est fou ça. Comme vous le voyez, je suis en pleine forme. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, et que j'aime bien, c'est que vous me disiez d'où vous me regardez, parce que ça nous fait voyager. Moi, je vous parle depuis ma petite chambre à Paris, et vous me regardez depuis... Let's go! La Haute-Loire, Nice, Paris, Caroquet, c'est pas une ville, Aix-en-Provence, Wavre, j'espère que je prononce bien, en Belgique, Camelot, Brest, Toulouse, Villeurbanne, Arras, Lyon, Toulouse, Marseille, Paris, il n'y a pas d'international ce matin, Bordeaux, Materrasse, la chance, Toulouse, Angers, Saint-Brieuc, Chartres, Montpellier, Vienne dans l'Isère, grâce Amiens, grâce c'est joli, Montpellier, Lille, je regarde de Reims, Munich, haha, c'est parti. L'international est là, Singapour, Bruxelles, Perpignan, Nantes, depuis le chantier, Alex Courageux, de Milan, de Nice, de Montrouge, du TAF, Metz, Angers, Rouen, Nantes, Seine-et-Marne, depuis ton salon, Kletos Bright, ah c'est toi? Je me demandais qui c'était, je connaissais pas ce visage. Ok, tu pouvais pas trop me taxer mes Chris Proll, s'il te plaît. Guéméné sur Scorff, ça sent un petit peu la Bretagne, Nord Aveyron, salut d'Australie, Oila, alors là ça veut dire qu'il est quoi? Ça veut dire que c'est la nuit pour toi, 10h, c'est le soir, je pense, non? Chambéry, Dijon, Villeurbanne, Le Havre, Toulouse, Lyon, Lyon, les Lyonnais sont là. D'où les Franc-Comtois sont là. Caen, pays de Gex, dans l'Ain, Paris, Lyon, Strasbourg, Lyon, 3e arrondissement, on précise, Bayonne, Vienne, Autriche. C'est beau, je suis allé une fois à Noël, il y avait de la neige. Oh, c'était magnifique. Tours, Niort, Rennes, Clamart, Saint-Chamond, Télès, c'est quoi Télès? C'est tout le sport? C'est pas une ville. Angers, Lyon, Lille. Autun, je connais, Mademoiselle Padma, je connais. J'étais invité une teuf là-bas. Je ne suis jamais arrivé. Une histoire, je vous raconterai un jour. Rennes, Warem en Belgique. Ah, on dit les Wallons. On ne dit pas les Vallons. On va dire Warem alors. Marseille, Montélimar, Mont-de-Marsan, Morbihan, la Gacilly, je connais. Je connais. J'ai roulé ma bosse là-bas. Toulouse, je vois un coucou de Tarbes. Je connais. Je connais. Villeneuve, la Garenne, Montpellier, Marmande, Bruxelles, je connais, j'adore. Luxembourg, Versailles, Antibes, je connais, c'est beau Antibes. Ah, je connais Antibes, j'ai fait des fêtes là-bas. Fais bien la fête à Antibes. Toulouse, Tours en télétravail, Lausanne, Bordeaux, Angers, Montpellier, Brighton, je connais. Session en Isère, je connais pas. Versailles, Mons, Wapi, depuis le siège du Monde, Arcom, Paris 13. Donc tu travailles peut-être au Monde. Cool, Bru, Picoville, Lyon, toujours depuis Bordeaux. Hong Kong, Nevers, ici les Moulineaux, le Doubs, Singapour, Bourg-en-Bresse, les Hautes-Alpes, Saint-Priest, Moissy, Cramaille, c'est formidable. Cherchons une destination un petit peu exotique. Métro à côté de la Tour Eiffel. Voilà, c'est exotique ça. C'est cool. Merci. Bon, bah voilà, on a un petit peu voyagé. C'est sympa. Oh, il y a beaucoup d'amis belges, ça me fait bien plaisir. Je vous salue, amis belges. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? La matinée tienne, pour ceux qui sont jamais venus, on lit les journaux, la presse écrite, c'est mon kiff, c'est mon média préféré, on lit cette presse ensemble et on en parle ensemble. C'est en trois temps, je commence par un petit sommaire en musique, 3 minutes de musique, bon, ça va être plus court ce matin parce qu'il y a un peu moins d'articles que d'habitude. Il y a autant de journaux que d'habitude mais j'ai trouvé moins d'articles intéressants, on prendra le temps, il n'y a pas de souci. Sommaire en musique, ensuite on prend un quart d'heure pour développer un petit peu ce sommaire. Comme ça, si vous n'avez pas 2h30, 3h à me consacrer, vous avez quand même l'essentiel de l'actualité. Comme ça, vous suivez l'actu, c'est cool. Et puis ensuite, on prend le temps pour ceux qui ont le temps de lire ces journaux, de s'interroger ensemble sur l'actualité, de se poser des questions, etc., etc., etc. Je remercie les derniers subs et je vous pose une question pour le début de ce stream, à savoir est-ce qu'on revient sur le The Event ou pas. Clems, 564, merci pour ce prime. T-Rex Doggerland. J'aime bien les pseudos. Merci pour ce 8e mois. À tous les deux, merci. Ok, alors la question, c'est celle-ci. Je vais sur mon compte Twitter. Regardez. Voilà. Solal va un petit peu mieux, mais il va venir nous voir, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'entends une porte qui s'ouvre. Coucou, Rodélia. Which machine? Yes. You want me to remove it now? Ok, shall I go? Ok, désolé, il faut que j'aille bouger les machines à café dans la cuisine parce que c'est très important. Parce qu'il y a les travaux et les machines à café, bon, bah voilà. Bon, bah je vous laisse discuter ensemble. Je vous dis à tout de suite. Il faut que je me dépêche, ça a l'air d'être urgent. J'arrive. I'm going in the kitchen. By the way, I'm Brian, so I'm in the kitchen.
J'arrive. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je crois que à la maison, en fait, on n'a pas tout à fait intégré que le stream était un travail, en fait, un vrai travail. Et donc, en fait, tout le monde débarque ici non-stop, les enfants, les adultes. Maintenant, avant, c'était juste les enfants qui débarquaient quand ils voulaient pour me parler de Pokémon ou de choses diverses et variées. Maintenant, c'est les adultes qui débarquent ici, qui disent bon, bah tiens, tu fais rien? Non, rien de spécial. Tu peux déplacer les machines à café dans la cuisine? Ouais, pas de soucis. C'est juste que non, ok. Maintenant, ok, ok. Aucun respect, je veux dire, pour le streamer, quoi, je veux dire, pour l'humain. Je ne sais que penser de ça. Oui, voilà, les joies du télétravail. Je vais filez-moi les subs, bordel. Je vais louer un petit appart à côté, qu'on me laisse tranquille. Quoi, Jean-Luc Godard est mort? Selon Libération. Oula, subitement, j'ai pris un coup sur la tête. On va aller voir ça. Voilà. Donc, voilà, c'est toute petite machine à café. J'ai pas compris pourquoi Rodelia me demandait de bouger la machine à café moi-même. Peut-être parce qu'elle sait que c'est une des choses les plus précieuses qu'il y a à la maison. Peut-être, quoi. Allons voir. Ouais, Klein, on va en parler par contre, le photographe, bien sûr. Allons voir cette info sur Jean-Luc Godard. Info chat pour l'instant. Une info, ça se vérifie tout le temps, bien sûr. Hop, allons voir. Voilà, j'ai un peu peur du résultat. C'est quand même un des monuments du cinéma français. Aïe, non, ça va, non. Vérifions, une info, ça se cherche, ça se vérifie. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Twitter de Libé, ok. On est sur un média qui est assez sérieux. Allons voir. Je ne vois rien sur Internet. Véridique Twitter. Attention, une info, même annoncée par un média sérieux, elle se vérifie. Hein. C'est pas parce qu'un journal, un média, même sérieux, vous donne une info que c'est une info sûre. Voilà, ça se vérifie. Voilà. Allons voir le site de Libération. Voilà. Et allons. Oh, c'est triste. Ok. Bon, bah désolé, on va commencer ce stream par ça. Hop. Hop. Alors, je vous affiche le compte Twitter de Libé. Alors, on est sur le compte Twitter officiel de Libération, qui est effectivement un média sérieux. Voilà. Les médias sérieux, il arrive qu'ils se trompent. Mais là, connaissant le rapport à l'information de Libération, on peut considérer que cette information est sans doute, hélas, vraie. On va essayer d'en trouver la confirmation par ailleurs. Voilà. Bon, Libération, même dans un tweet, arrive à faire du Libération, c'est-à-dire à choisir une très belle photo, et c'est important pour rendre hommage à celui qui serait mort. Voilà, un des cinéastes contemporains les plus importants en France. Voilà, lisons ce papier de Libé. Jean-Luc Godard est mort. Dernière minute. Le cinéaste franco-suisse se serait éteint, conditionnel à l'âge de 91 ans. A appris Libération auprès de ses proches ce mardi. C'est tout. C'est très. Alors ça, c'est une information sur un média qu'on peut considérer comme fiable, et malgré tout, c'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes. Voilà. Parce qu'une information, elle ne peut être considérée comme fiable que d'abord si la source est identifiée. Et identifié avec certitude. Par exemple, ici, on nous dit « a appris Libération auprès de ses proches ». Les proches, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Est-ce que c'est une épouse? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est son agent? Voilà. Donc, plus la source est précise, et plus l'information, elle semble juste. C'est-à-dire que quand la source est identifiée, on sait qui appeler, par exemple, pour vérifier cette source. Si on vous dit l'agent de Jean-Luc Godard ou le producteur de Jean-Luc Godard, Monsieur Tartampion, annonce la mort de Godard, c'est un peu plus important que l'a appris auprès de ses proches. Ce qui ne veut pas dire que cette information est vraie. Donc on va continuer ce travail, on va aller sur le site de Libération, ici, voilà, et on trouve un article qui semble plus complet. Voilà. Bon, là, ils ont déjà publié une biographie, donc Libération semble quand même sûr de son coup. Alors, Black Nexon GT, l'information que tu nous donnes n'est pas forcément contradictoire avec la mort de Godard. C'est-à-dire, quand tu dis « je viens de tomber sur un site qui dit que ce serait une fausse rumeur qui circulerait depuis hier et que ses proches auraient démenti », en fait, il peut arriver, par exemple, que la santé d'une personnalité soit suffisamment fragile à un moment pour que fuite cette information de la mort, par exemple, sans que les proches ne confirment, ou alors que la personne soit décédée sans que les proches ne confirment. Voilà. Et peut-être que la confirmation officielle par les proches vient seulement de tomber. Ces deux infos ne sont pas contradictoires. Libération semble sûre de son fait. Mort de Jean-Luc Godard, histoire du cinéma, cinéaste total aux mille vies, et à l'œuvre aussi prolifique que protéiforme, incarnation des contradictions d'un art en recherche permanente, c'était quelqu'un. Godard serait donc mort à l'âge de 91 ans. Il laisse une carrière parsemée de chefs-d'œuvre et d'incompréhension qu'il a érigé de son vivant en légende. Voilà. Alors, moi je ne suis pas abonné directement à Libération, je veux Libération par un autre biais, donc je n'ai pas accès à cet article, mais on va faire des recherches, bien sûr. D'abord pour voir si cette mort est confirmée par d'autres médias. Voilà. Plus vous avez de sources, en fait, et plus l'info semble de qualité. Donc là, j'ai une source qui est Libération, j'en cherche d'autres. Vous voyez ? Et là, je n'en ai pas. Après, Libé peut être le seul média à l'avoir pendant un certain temps. C'est honteux si je vous dis que je ne connaissais pas Godard, me dit Kiros, j'ai 24 ans. Non, rien n'est honteux. Voilà. Godard, c'est pas quelqu'un dont on parle dans l'actualité du cinéma ces dernières années. On ne peut pas dire qu'il était extrêmement présent, mais c'est un grand du cinéma. On va pouvoir revenir sur sa vie. Alors, est-ce que vous voyez d'autres sources considérées comme fiables qui nous confirment, comme Libération semble le faire, la mort de Jean-Luc Godard? Que Libé pour l'instant? Ouais. Voilà. Aucun autre média n'en parle pour le moment. Merci pour la pédagogie, me dit Flo. En fait, ce qu'on fait ici aussi, c'est au-delà, parce qu'on va rendre hommage à Godard si cette information est confirmée, au-delà de cet hommage à ce grand cinéaste, et aussi ce qu'on fait, c'est je vous montre comment un journaliste essaye de procéder pour vérifier une info, voilà, la prudence qu'il peut avoir. Par exemple, là je me mets à la place de mes collègues sur France Info, la rédaction où je travaille, où je présente la matinale tous les matins. Là le travail qui est fait, c'est que à France Info on a sûrement vu cette info de Libé et on est en train de chercher à la confirmer. Si on fait bien notre travail, nous ne donnons cette information que si nous avons nous-mêmes la confirmation de cette info. Voilà. Hein. Ou on obtient cette info auprès de proches nous-mêmes qui nous assurent qu'effectivement Jean-Luc Godard est décédé. Ou alors on ne la donne pas, on retient cette info, hein, parce qu'à aller trop vite sur l'information, eh bien, c'est comme ça qu'on se trompe. Voilà. Moi j'ai déjà vu des décès de personnalités annoncés soi-disant par des proches justement, et en fait on s'était trompé. Ou alors on source l'information, c'est-à-dire que on peut décider, mais c'est une décision qui est prise au niveau de la direction de la chaîne, hein. On donne cette information et on la source, c'est-à-dire selon nos confrères de Libération, citant des proches, eh bien Jean-Luc Godard serait décédé. Voilà comment on fonctionne. Est-ce qu'on a d'autres sources qui nous donnent Audrey me dit que Pucci que le Figaro donnerait cette info. Ouais. Ok. Allons voir le Figaro. Ok. Voilà. Alors, le Figaro peut reprendre l'info de Libé. Hein. Et dans ce cas-là, sourcer Libé. C'est ce qu'on va voir. Alors là, je suis. Hop. Par exemple, il y a un bandeau à droite qui est très intéressant sur le Figaro.fr qui est plutôt bien foutu. C'est le flash. C'est toutes les dernières actus. Voilà. Là, c'est très intéressant. C'est toutes les dernières infos importantes. Vous descendez. C'est assez bien foutu. Ça, quand vous voulez vraiment avoir les dernières infos, c'est pas mal foutu. Là je vois pas de Godard, voilà. Et en une non plus, voilà. Oui, il faut pas rire. Rios 12, le Figaro qui source Libé. Oui, ce n'est pas drôle en fait. C'est un truc de rigueur, c'est-à-dire un site d'info pas sérieux, voyant cette information sur le site de Libération, pourrait dire, pour faire du clic, pour faire du trafic, hein, je vois un site par exemple d'infomédia là, qui donne cette info-là, à mon avis qui n'a pas l'info en direct, pourrait dire Jean-Luc Godard est mort, voilà, plus d'informations à venir. Voilà. Un média sérieux qui n'aurait pas l'information en soi directement, voyant cette info, pourrait ou se taire, rien dire, chercher la confirmation en attendant, voilà, ou dire Jean-Luc Godard serait mort selon nos confrères de Libération. Ça n'a rien de drôle, en fait, c'est juste une façon rigoureuse de travailler. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ok. Donc, comme le résumé Rundle très bien à l'instant, il n'y a qu'une seule source, c'est exactement, soyons prudents. Je ne remets absolument pas en cause la rigueur de mes confrères de Libération, c'est juste de la prudence. Régulièrement, des médias de premier plan, des médias considérés comme sérieux, se trompent, voilà. Régulièrement, la mort de personnalité est annoncée par ou des médias pas très très rigoureux ou des médias très très sérieux qui ont travaillé un petit peu trop vite. Le journalisme est une activité humaine, faillible, on fait des erreurs. Comment ne pas faire trop d'erreurs? Eh bien, c'est de ne pas aller trop vite. Voilà. Le journalisme, c'est rapporter des infos, mais c'est aussi les vérifier. Voilà. Et vouloir donner trop vite une info, pourquoi faire? Pour prendre la concurrence de vitesse, c'est de ça dont on parle, c'est de la concurrence entre médias. Voilà. Avec un temps média qui s'est accéléré à l'heure d'Internet et à l'heure des chaînes info. Vouloir donner une info trop vite pour la donner avant les autres ou en même temps que les autres, c'est comme ça qu'on fait des boulettes, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc, entre médias sérieux, eh bien, on n'est pas dans cette course à l'échalote de donner l'info avant les autres si elle n'est pas vérifiée. C'est peut-être pour ça que, pour l'instant, vous n'avez pas d'autres médias, donc ça veut dire qu'ils font plutôt bien leur boulot, qui donnent cette info par ailleurs. Il y a Défécateur officiel qui est avec nous et qui nous indique, qui a fait une petite recherche, que les sites Sofilm, Le Globe et Morandini retweetent l'info, mais en citant Libération. Donc ça, ok, c'est du bon boulot. Je n'ai pas vu d'autres sources pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Donc, on va faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'on va mettre cette actualité de côté et on va y revenir un peu plus tard, si effectivement on estime que d'autres médias confirment de façon indépendante cette information, et on pourra y revenir, parce que il est hors de question, comment dire, on me dit que le site de l'RTS, donc un média suisse, donne cette info, il était franco-suisse, donc on va aller voir quand même. Il est hors de question de commenter la mort de quelqu'un si on se rend compte dans une demi-heure qu'en fait Godard n'est pas décédé. Voilà, c'est pour ça. Hein. Voilà. Là, c'est le site de l'RTS. On est sur un média suisse. On va taper. Ce que j'aurais dû faire, c'est RTS Godard. Bon, par exemple, là, si la RTS donne cette info, je l'ai pas, cette info. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ok. Donc, voilà, prenons le temps. Peut-être que dans une demi-heure, on va y revenir ensemble. Pour se dire, ok, bon, bah, c'est confirmé, Jean-Luc Godard, ce grand du cinéma, est décédé. Et on va revenir un petit peu sur sa filmographie, on ira voir quelques extraits, par exemple, Pierrot le Fou, par exemple, si je dis pas de bêtises, avec Belmondo. On ira voir quelques extraits pour comprendre. Quelqu'un me disait, mais je sais pas qui est Godard tout à l'heure, qu'est-ce que ce grand monsieur a apporté au cinéma. Et peut-être que dans une heure, le mépris, ouais. D'après le roman de Moravia, si je dis pas de bêtises, Le Mépris, c'était avec Brigitte Bardot, si je dis pas trop de conneries. Et peut-être que dans une demi-heure, on se rendra compte que bah non, c'est une erreur. Peut-être qu'il est très malade et fatigué, mais qu'il n'est pas encore mort et qu'on aura bien fait de pas revenir dessous. Voilà. Bon, merci en tout cas pour cette info chat, parce que du coup, ça m'a permis de réagir assez rapidement. Je remercie les derniers subs. Et puis, peut-être qu'on peut commencer par l'actualité du Z-Event. Julien92FR, merci pour le 9e mois d'abonnement. Victor Amius, merci pour le 5e mois d'abonnement. Donis, merci pour le 13e mois d'abonnement. Ça claque. Frama85, merci pour le 4e mois d'abonnement. Clem564, merci pour le 12e mois. Et je voulais vous montrer ce tweet que j'ai fait tout à l'heure pour annoncer ce stream, avec une question ici, parce que je me la posais. Faut-il revenir ce mardi, donc aujourd'hui, à nouveau sur le Z-Event dans la matinée Étienne, alors qu'on en a déjà parlé hier, hein, le bilan très positif du Z-Event, la belle ambiance, le montant à nouveau record collecté pour les associations écologistes, et puis le début de polémique après la vidéo du président Macron et les réactions parfois courroucée, parfois de colère, à la fois sur les réseaux sociaux et de certains streamers en direct du GM. Est-ce qu'il faut y revenir un petit peu ce matin? J'ai fait un petit tweet là-dessus avec un petit sondage. C'est vous qui décidez. 42%, on continue. On passe à autre chose, 25%. Le choix 3 est mieux. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal. 32%. Voilà. Donc, est-ce qu'on revient un petit peu sur le The Event? Bon, c'est vous qui décidez. Ça, c'est un sondage Twitter. On va faire un sondage Twitch. Hop. Alors, est-ce qu'on revient un petit peu sur le The Event? On va pas en faire des caisses, mais ce matin, boum, boum, nouveau sondage. Alors, on revient sur le The Event. Oui, non. Choix C. Oui, non, c'est vous qui décidez. Voilà. Et moi, je me plie à votre décision. Voilà. Et let's go. Ça dépend. Est-ce qu'il y a de nouveaux articles intéressants? Bon, on va voir. On va voir. Alors. Et affichage. Voilà. On revient sur le The Event. Oui, 71%. Non, 24%. Bon, a priori, c'est les tenants du oui qui sont en train de l'emporter. Il faudrait une énorme remontada façon Real de Madrid pour les partisans du non pour s'imposer. Voilà. Sachant que je n'ai pas du tout suivi, je suis curieux du Snakey Katarina. On va y revenir. On va pas y passer. On va pas y passer trop de temps. On va aller voir les derniers articles sur la question. Le choix C, 5%. Même le choix C n'est pas très en forme. C'est plutôt oui. Je crois qu'on peut arrêter ce sondage. La tendance est assez nette. Je pense que pour les partisans du non, ça va être compliqué de revenir. Donc, comme dit MJ Windsor à l'instant, on va y revenir, mais assez rapidement. Alors, le The Event. Voilà. Les épisodes précédents. Nouvelle édition du The Event. A priori, la dernière sous cette forme à Deserator. Aussi gros. Voilà, c'est fini. C'est beaucoup de. Voilà, je pense que Zera dit que l'exercice est arrivé un petit peu à son terme sous cette forme et qu'il y aura peut-être d'autres The Event, mais sous des formes un peu plus modestes. Voilà, c'est ce qu'on croit deviner dans ses propos. Dernière édition, nouveau record, le record de 10 millions d'euros de collecte l'an dernier a été battu d'un peu. Voilà. Donc, grande réussite. Quand j'en ai parlé avec vous, vous m'avez dit saine ambiance, ambiance chill. Il n'y a pas eu les polémiques de l'an dernier, vous savez, sur... Le sexisme, les rapports hommes-femmes, tout ça, donc ambiance un peu moins délétère. Donc ça, c'était cool. Et puis, jusqu'à la toute fin, catastrophe, dérapage, accident. Le président Macron tweet une vidéo dimanche soir, donc quelques heures avant la fin du The Event, pour féliciter les participants, les streamers, les viewers, c'est formidable, voilà. Ce que vous faites pour cette grande cause, ce sont ces mots de l'environnement, on va dire message de 2 minutes 20, 45 secondes là-dessus, et tout le reste de message sur l'e-sport, en disant « Ah, puis j'ai des bonnes nouvelles, vous vous rappelez, on s'est vu à l'Elysée avec les acteurs de l'e-sport français, j'ai des bonnes nouvelles, il y a des grandes compétitions internationales d'e-sport qui arrivent en France en 2020, là, bientôt, 23, 24, c'est formidable. » Bon. Et bon, voilà, et puis les réactions commencent sur les réseaux, mais aussi depuis The Event en direct, en mode. Mais attends, mais pourquoi tu parles d'e-sport? En fait, là, c'est The Event, c'est caritatif, c'est l'écologie, donc les gens qui ne comprennent pas trop. Début d'accusation de récupération, en mode, attends, c'est bon, on comprend ce que tu fais. Et puis la colère monte, exprimée par certains streamers comme Antoine Daniel, comme Angle Droit, comme Ponce, c'est des vidéos que vous avez pu entendre ou qui sont faciles à trouver sur internet, qui disent en termes plus ou moins châtiés, parfois pas trop, en mode total récup, voilà, nous là on bosse pour l'environnement, tu ferais mieux, je traduis en termes un peu policés, tu ferais mieux, monsieur le chef de l'État, de t'occuper de la question de l'environnement plutôt que de t'associer à notre cause. Voilà, je résume. La polémique, elle est là. Bon, allons voir rapidement ce que la presse en dit. Allons voir d'abord si la presse en parle. Voilà. Déjà, à cette première question, je peux vous répondre que non. C'est-à-dire que dans les journaux que je lis, moi, le matin, donc Le Monde, hier, le matin, Le Figaro, Libération, Le Parisien, La Croix, Les Échos, L'Opinion, L'Humanité, L'Équipe, ce média, ces médias que moi j'aime, je vous vends la presse écrite chaque matin, ces journaux n'en parlent pas de cette polémique, estimant que bon bah l'important c'est peut-être plus la réussite du The Event que la polémique qui a suivi. Pas un article. Après, si on va sur Internet, on va trouver des articles. On va trouver des articles, mais déjà, on peut dire que les médias, en tout cas les médias que moi j'aime, n'en parlent pas. Alors maintenant, si on va chercher des articles sur Internet, est-ce qu'il y en a ? Voilà, allons-y. Boum. Voilà. Là, on a un article du Parisien, par exemple, voilà, qui revient sur la polémique. Leparisien.fr, ça n'est pas sorti dans l'édition papier du Parisien. 10 millions d'euros récoltés, donc réussite. Et les streamers en colère contre une vidéo d'Emmanuel Macron. Les streamers ou des streamers, d'ailleurs. D'ailleurs, parfois, le titre est maladroit et ne reflète pas tout à fait l'article. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte très très vite. Les streamers en colère, donc on peut penser que tous les streamers sont en colère. Et après, l'article précise tout de suite, certains participants n'ont pas apprécié le message de soutien tweeté par Emmanuel Macron, donc ça n'est pas tous les participants. Il y a Solal qui nous rejoint. Solal! Ok. Because too much noise? Ok. It goes everywhere or... Can you close all the doors before leaving? No, oh, okay. Oh. Okay, great, great. But it's the weather is fine. The weather is okay. Okay. Okay, great. Maybe we you could have been you could have gone to Marie's Ellen. Mom's house. Mm-hmm. Do you want? No, it's okay. It's okay. Okay, okay. Thank you, Delia. À tout à l'heure, Solal. J'arrive. Oui, je viens te voir. Je viens te voir. Et après, tu viendras dans la poussette avec papa. Ok. À tout à l'heure, mon chéri. See you. Désolé. Désolé, il y a les travaux à la maison, du coup il y a trop de poussière pour le petit, donc Rodelia, qui est la nounou qui s'occupe des enfants, a décidé de sortir Solal pour qu'il ne respire pas la poussière, ce qui me semble une bonne initiative. Voilà. Donc voilà, l'article du Parisien, le voici. Donc d'abord l'article souligne le carton, le succès, hein, on n'est pas sur la polémique uniquement. C'est un carton, c'est une réussite, voilà, pop, le montant officiel de la cagnotte, donc l'article qui est en ligne, que vous pouvez retrouver en deux clics, donne le montant total de la cagnotte, c'est un nouveau record. 50 heures de stream, le palais des congrès de Montpellier, des participants super mobilisés, les spectateurs présents, les donation goals. Hop, ici en bas à droite, on voit la petite vidéo à l'instant avec Alain Chabat et Étoile. Là, c'est le président Macron, c'est la fameuse vidéo. Voilà, donc le succès, tout le début de l'article est sur le succès de cette édition. Voilà. Et effectivement, voilà, la polémique arrive avec dimanche soir. Pour ceux qui n'ont pas l'info, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a tenu à féliciter ER, donc petite faute d'orthographe ici sur le participe passé, à féliciter ER, bon ça arrive, pour leur défense de l'écologie, une cause que se partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite. Voilà, ça, donc, je vous l'ai dit. Et bien les réactions de certains streamers, ici vous avez Antoine Daniel, la colère. Antoine Daniel, dont les propos sont rapportés ici, ainsi que ceux d'angle droit. Alors, il y a plein de mots qui sont cachés parce que Antoine et angle droit et Ponce aussi étaient un petit peu en colère. Je veux qu'on sache, disait Antoine Daniel, que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent, a-t-il dit. Cette vidéo, on l'a écoutée hier. C'est à cause de gens comme lui, poursuit le streamer, entre autres, qu'on fait ces événements-là. J'en ai ras le... Bon, le mot est caché. Qu'il fasse sa promo sur notre de dos, a-t-il insisté, dénonçant tous les ans son pute de tweet de mais voilà, je vous le lis comme le Parisien l'a écrit. Et puis la parole à angle droit aussi, ben oui, tu comptes sur nous parce que tu rien merde. Les mots sont pas écrits, j'arrive pas à les lire. Si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose, c'est insurgé de son côté la streameuse angle droit. Bon, on rigole, mais ces extraits, on les a passés hier. Voilà, bon, mais pas beaucoup d'articles finalement, hein. Voilà, par exemple, vous voyez, il y a un article dans Le Monde, mais qui n'est que sur le record de dons avant le changement de formule. Le tweet du président Macron, il est là. Mais voilà. Ah si, quand même, la récupération politique passe mal. Voilà. Alors le journal Le Monde souligne quand même que le stream L'événement s'est passé sans incident majeur, voilà, mais que, effectivement, les streamers ont réagi au tweet de soutien du président Macron. Voilà. Et là encore, on cite Antoine Daniel. Voilà. Bon, tout petit passage dans l'article. Conclusion de cet article du Monde, restent les interrogations pour la prochaine édition. Auprès de France Info, Zerator avait ainsi confié que cette édition du The Event serait probablement la dernière sous cette forme. Zera, qui a été notre invité ici dans la rencontre Étienne il y a quelques mois dans cette pièce, nous avait dit la même chose, les organisateurs souhaitant réduire la voilure et plancher sur une nouvelle version du marathon de streaming. Pour l'instant, aucun élément nouveau ni aucune date n'ont été dévoilés concernant cette refonte. Voilà. Donc vous voyez, pas tant d'articles que ça finalement. Alors je crois que BFM, chaîne info, a fait un truc là-dessus, assez axé sur la polémique. Et j'ai même vu un article sur RTL. Voilà. Qui est Antoine Daniel, le streamer qui a insulté Emmanuel Macron? Mais on va dire que ces articles-là, très axés sur la polémique, sont pas tellement représentatifs de la manière dont les médias traditionnels ont couvert cet événement. On est plutôt regardé sur le record de dons, Huffington Post, le The Event toujours plus haut, l'équipe, West France qui suit beaucoup l'actualité e-sport, le The Event récolte plus de 10 millions d'euros sur la cause environnementale. Hop, ici, voilà. Je sais qu'à West France, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, voilà, voilà. Tout le début de l'article est sur le succès et à la fin, on parle un peu de la polémique. Voilà. Donc, la polémique passe un petit peu au second plan. Finalement, c'est surtout sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, en fait, que cette polémique a pris de l'ampleur. Je vous lis un petit peu et puis on va pouvoir passer à autre chose si vous le souhaitez. Mon café, il est là. Proto-Rabin nous signale un article dans Mediapart sur le The Event, sur les contradictions écologiques de l'événement. Alors, Proto-Rabin, sache qu'on l'a lu déjà il y a quelques jours, cet article de Mediapart. On s'est un petit peu interrogé parce qu'on s'est rendu compte que le seul article qui ait jamais été écrit par Mediapart sur le The Event, le seul article de la rédaction de Mediapart, le seul, hein, on a vérifié, c'était cet article qui s'interrogeait sur les contradictions écologiques du The Event. Bon, bah voilà. Donc, mais on l'a lu. On l'a lu. C'est pourtant les articles polémiques qui sont relayés, hélas. Oui, mais en même temps, si on se rend compte ensemble là, que les médias traditionnels, les médias de qualité à peu près, quoi, ne sont pas tellement sur la polémique, en fait. L'ont pas estimé essentiel. Je vous rappelle que dans tous les journaux que j'ai lus ce matin, de presse écrite, hein, dans les tirages papier, il n'y a pas un article sur la polémique. Et sont plutôt penchés sur la réussite de ce truc. Bon, après, si les gens, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ne font que retweeter les polémiques, ben oui, ça donne une caisse de résonance importante au truc, mais le responsable de cette caisse de résonance, c'est le réseau social, ce sont les utilisateurs, et vous voyez bien que, en l'occurrence, c'est pas les journalistes. Je vous lis un petit peu là-dessus. Le langage grossier a choqué les gens qui ne connaissent rien à Twitch, c'est juste ça la pseudo-polémique, dit Nekaro. Oui, les mots utilisés, effectivement, ont choqué. Je vais vous montrer, moi j'ai fait un tweet là-dessus que je voulais sobre, j'ai pris ma petite sauce au passage d'ailleurs de deux camps très différents, c'est très drôle d'ailleurs. Twitter, c'est vraiment le défoulement de plein de gens, c'est assez amusant, maintenant j'ai l'habitude. Allez, je lis quelques réactions. Je vous montre le tweet et on enchaîne. Oui, il y avait Jean Massier aussi qui s'est effectivement, qui en des termes un peu plus châtiés, a exprimé sa colère. C'est vrai, tout à fait. Jean, exactement. Jean qui a fait une belle collecte hein, d'ailleurs pour le The Event. GG à lui, il a hyper assuré. Je vous lis un petit peu. Vraiment dommage qu'il y a des articles qui ne parlent même pas de l'event et de la somme récoltée, me dit Takaïov. Les médias que moi je lis. Ils n'étaient pas uniquement sur la polémique. Hein. Voilà. Bon, après, les articles qu'on vient d'évoquer, c'est pas des sites, c'est pas des médias que je consomme personnellement. Donc, dans le journalisme, il y a de tout, il y a de la qualité, c'est comme tous les métiers. En l'occurrence, c'est pas les médias auprès desquels je m'informe. Bonjour Monsieur Étienne, Macron est-il le plus insulté de tous les présidents français? Laurent, bonne question, j'ai pas la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, le président, le pouvoir. Dans une démocratie, c'est plutôt sain d'ailleurs qu'on puisse s'en prendre, même parfois vertement, à notre président ou à nos élus. Il y a des pays où c'est pas possible, hein, on vous arrête direct. Donc c'est plutôt un signe de vitalité démocratique, on va dire, même si parfois ça part sur les insultes. Est-ce que Macron est le plus insulté de tous les présidents? Même en remontant dans le temps, vous allez trouver des présidents qui ont été chahutés. Pour les plus jeunes, ça va paraître un petit peu étrange. Le général de Gaulle, qui a un peu une figure mythique de l'histoire de France pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de la France libre, et son rôle dans la Ve République, puisqu'il est, il est parmi les constituants, il est un des pères fondateurs de la Ve République. Voilà, le général de Gaulle, on peut estimer par exemple que c'est quelqu'un qui n'a pas été insulté. Eh bien, détrompez-vous, le général de Gaulle, il était haï d'une partie des Français. Je dis bien haï, à la fin de son dernier mandat, quand il n'était plus le sauveur de la France, le chef de la France libre, mais bien un politique et un président, il était haï d'une partie des Français, ceux en partie d'ailleurs qui ont voté contre le dernier référendum qu'il a convoqué, suite à quoi De Gaulle a dit: bon, vous votez non à mon référendum. C'était donc en 60, je vais vous dire une bêtise, 69, j'espère que je dis pas trop de conneries. Bon, bah dans ce cas, je m'en vais. Voilà, donc même De Gaulle, à l'époque, a pu être très critiqué et, à mon avis, insulté. C'est juste qu'aujourd'hui, la nouvelle donne, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Cette espèce de caisse de résonance à voilà, tout propos, toute expression de colère. Et donc, cette colère contre le dirigeant, elle peut s'exprimer plus facilement, déjà, et de manière plus amplifiée, puisque les commentaires sur les réseaux sociaux, les déclarations des uns et des autres sur les réseaux sociaux, devenant parfois des informations reprises par les médias traditionnels. Voilà. Donc, alors, après, il y a des historiens qui se pencheront un jour sur cette question, quels ont été les présidents de la Ve les plus insultés, par exemple. C'est une question qui peut être intéressante, on n'a pas la réponse ce matin. Ouais. Ok, je vois qu'on suit le dossier Jean-Luc Godard, merci à vous, c'est cool. Et Babos de merde a raison, nous dit dans le chat que Zera en a parlé au tout début du The Event, de cette contradiction. On parle de la contradiction du The Event avec l'écologie, en raison de la consommation d'énergie du numérique en général et de Twitch en particulier. Et sans attendre l'article de Mediapart, Zera avait déjà parlé de cette contradiction au début du The Event. Voilà. Allons voir, je voulais vous montrer une espèce d'illustration de ce qu'on dit là, du rôle des réseaux sociaux et de Twitter. Voilà. Bon, moi je consomme Twitter pas mal parce que je trouve que c'est un instrument qui n'est pas inintéressant pour s'informer. Sur cette polémique, moi j'ai fait un tweet que je voulais le plus lambda, le plus neutre possible, le plus journalistique possible. Je vous le montre. Peut-être qu'il était maladroit, mon tweet d'ailleurs, parce qu'il a provoqué beaucoup de réactions. Je vous le montre. Donc c'était le 12 septembre, c'était hier, le 12 septembre, à 6h34 du matin, donc au début de ma matinale. Je vois toutes les réactions autour du tweet, la vidéo du président Macron. Hein, vous avez 55 000 likes, 7 000 retweets, enfin citations, tweets cités et 6 000 retweets. Donc, je vois que ce tweet a beaucoup fait réagir. Je vais voir les commentaires. On est sur du 90-95% négatif, critique, récupération. Voilà. Et votre bilan écologique, vous, le président Macron, on est sur quelque chose de très, 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 très négatif à 90%. Voilà. Donc, je tweete moi. Un truc que je veux le plus sobre possible, que je veux informatif. Au vu des réactions sous son tweet, le message du président au The Event 2022 sur l'écologie ne semble pas avoir convaincu. Bon. C'est un constat journalistique, c'est une info que je donne le matin en me disant tout le monde n'ira peut-être pas voir les commentaires. L'info que moi je constate en tant que journaliste, c'est que la vidéo du président Macron n'a pas laissé indifférent, alors n'a pas laissé indifférent les streamers, ça je le sais, puisque j'ai vu les vidéos, et manifestement ne laisse pas indifférent les gens qui ne sont pas forcément représentatifs des Français, mais les gens qui réagissent à ce tweet. Donc j'écris un truc que je trouve assez lambda, au vu des réactions sous son tweet, le message du président au The Event 22 sur l'écologie ne semble pas avoir convaincu. Et là, j'ai en gros, les messages, les réponses à mon message se divisent en deux grandes parties. Il y a les gens qui me disent « merci pour le décryptage, monsieur Étienne ». Voilà. Le nouveau Hugo décrypte, on se moque un petit peu de moi en me disant bravo, donc tu enfonces une grosse porte ouverte en constatant que les messages à la vidéo du président Macron sont négatifs. Donc on se moque un peu de moi, c'est de bonne guerre, c'est les réseaux sociaux, je trouve ça plutôt rigolo. en me disant, Monsieur Étienne, merci pour l'analyse. On n'a pas besoin de toi pour voir effectivement que juste sous la vidéo, les commentaires sont négatifs. Ok, bon, je pensais que ça pouvait être une info pour donner assez rapidement aux gens qui me suivent sur Twitter cette info. Mais ouais, c'est vrai, la critique est de bonne guerre. Ça, on va dire que 50% des messages, c'est ça. Et puis, dans un premier temps, c'est surtout ça. Dans un deuxième temps, donc en vous, ces premiers messages disent, ok, oui, l'info est juste, on constate comme toi, on n'est pas débile, que les réactions sont négatives. Et dans un deuxième temps, j'ai un autre type de réaction qui monte, qui monte, qui monte, et qu'on continue encore à avoir là, qui est, clairement venant de soutien et d'électeurs du président Macron, affirmé comme tel, se déclarant comme tel, s'affichant comme tel, y compris dans leur pseudo, et alors du coup me prenant à partie en disant que, écrivant ceci, en fait, on m'accuse de tous les maux en disant que c'est je suis extrêmement critique vis-à-vis du président Macron, que je n'ai pas à faire ce message en tant que journaliste, notamment du service public, c'est de l'anti-macronisme, je suis un militant de la NUP, etc. Merci David. Ah ah, David Dufresne, mon ami David, viens de nous raid, ami de David, bonjour. Allez voir la chaîne de David Dufresne, voilà, qui fait un super travail sur Twitch. David, on est en train de revenir une nouvelle fois, j'espère une dernière fois, sur la polémique autour du The Event et des propos du président Macron. Et je parlais des réactions que j'avais lues à mon propre tweet, notamment des lecteurs du président Macron, de soutien, qui disaient que je n'aurais jamais dû dire, jamais dû souligner, ce qui est pourtant un constat journalistique, à savoir que l'essentiel des réactions sur Twitter aux messages vidéo du président Macron étaient des messages négatifs. On peut aller voir les notifs, les dernières, vous allez voir, c'est très drôle. Tiens, regardez. Hop, je prends la première. Hein. Voilà, Raphaël22, voilà, qui se présente comme un socialiste ayant voté Macron aux deux tours de la présidentielle. Voilà, donc quelqu'un qui soutient le président Macron, écrit « Vous feriez mieux de vous offusquer des insultes proférées à l'encontre du président de la République. Êtes-vous un journaliste ou un militant de la NUP ?» Voilà. Mais des messages comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et comme tout militant d'ailleurs, ils se suivent entre eux, que ce soit pour ce camp-là ou pour un autre, alors j'ai eu le droit à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de ce type. Voilà. Bon. Mais pour moi, c'était juste un constat journalistique. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu de cette polémique ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin ? David, il faut que je t'invite à la maison d'ailleurs, bien sûr. Je ne sais pas si David Dufresne est toujours avec nous, mais David, il faut que je t'invite à la maison parce que j'ai lancé une nouvelle émission qui s'appelle L'Hebdo Étienne, où on revient entre passionnés d'actu sur l'info de la semaine. Et évidemment, j'ai pensé à toi, donc si tu veux venir à la maison manger des petits fours Picard, pas très bon, mais le budget est limité, et boire des trucs, là aussi le budget est limité, mais tu es le bienvenu. Super invitation qui fait super invite. David, merci encore pour le raid. Clémentia Merlin, merci pour le 13e mois d'abonnement. Warlof pour le Prime. La Diva Créole, comment vas-tu pour le 13e mois, je te remercie. Tatouf Métouf 78, c'est un pseudo qu'on connaît bien ici, merci pour le 13e mois d'abonnement. Sever B, merci pour le 6e mois. Julien 92 pour le 9e mois. Victor Ramius pour le 5e mois. Dounis pour le 13e mois. Frama 85 pour le 4e. Clems 564, merci encore. Je vous lis un petit peu et puis on va commencer à lire les journaux quand même parce que ça fait 58 minutes qu'on est déjà ensemble. Star Moon me dit qu'Antoine Daniel sera sur Popcorn ce soir. Bah oui, on est mardi, c'est vrai. Je pense qu'il endurera peut-être un peu plus son ressenti. Ok. Je suis Néna avec Rizosorg et d'autres. Est-ce qu'on peut venir aussi? Nous aussi, on est passionnés d'actu et on aime les petits fours Picard. Oui. Mais bon, déjà, mon épouse accepte que je privatise la salle à manger tous les vendredis soirs désormais de 20h à 23h. Donc, en termes de capacité, c'est un peu limité. Donc, pour l'instant, j'invite surtout les journalistes que je connais. Désolé. Oui, ils sont très bons, les petits fours Picard, par ailleurs. Oui. Mais bon, j'arrête de dire Picard parce que je ne suis pas du tout sponsorisé par Picard. Donc, un chasseur sachant nous demande « As-tu parlé de la mort de Jean-Luc Godard ?» La news est tombée il y a quelques minutes. En fait, on a commencé ce stream par ça, parce qu'on a commencé à se dire bonjour à un chasseur sachant, et quelqu'un nous a dit « Jean-Luc Godard est mort ». On allait vérifier cette information, et pour l'instant, on a fait le constat ensemble que seule Libération, média de qualité, mais pour l'instant, média unique, donne cette info. tous les autres médias en France qui relayent la mort de Jean-Luc Godard, en fait, source Libération. Et donc, en tant que journaliste, on attend une confirmation par d'autres médias pour être sûr de l'annonce de ce décès. Pourquoi ? Libération est un média de qualité, mais un média peut se tromper. Même si cette info me semble extrêmement vraisemblable, mon devoir en tant que journaliste, c'est d'attendre que cette information soit confirmée par d'autres sources. Plus tu as de sources, plus cette information est fiable. Voilà où on en est ce matin. Hop. Jeff aide mon mieux chez Samuel Lévit le rosé. David, oui, c'est vrai. Le rosé que j'ai débouché vendredi dernier, c'était de la piquette. Je pense qu'il a donné des maux de tête à tous mes invités. Je confirme. Ok. Ouais. Ok. Ok. Je vous lis. On finit sur le The Event et on enchaîne. Ok. Vous êtes plusieurs à me dire que pour l'instant, l'info de Libération est reprise par plein d'autres médias. Mais c'est l'info de Libération. Maori pose la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Un journaliste, est-ce que ça enquête ou ça redit ce que les autres disent, jamais compris ? Eh bien, un journaliste, ça enquête. Un journaliste, ça vérifie. Un journaliste, ça ne donne une information que s'il l'a vérifiée. Un journaliste sérieux. Ou alors, s'il ne l'a pas vérifié lui-même, il cite sa source. D'accord ? Par exemple, si un média la veut annoncer cette info, mais ne l'a pas vérifiée lui-même, la seule chose qu'il puisse dire, c'est « Selon nos confrères de Libération, Jean-Luc Godard, le cinéaste, serait mort. » Voilà. S'il ne l'a pas vérifié lui-même. S'il arrive à vérifier l'info lui-même en arrivant à joindre des proches, par exemple, ou des médecins, que sais-je, qui lui confirment ce décès, il peut l'annoncer. D'où ce qui me semble être la rigueur de mes confrères actuellement. Tous les médias actuellement qui semblent donner cette info en France, source, cite Libération, en disant bon ben voilà, nous on n'a pas l'info, Libé là. Libération précise pas sa source, me dit Aaron Deal, Libération dit selon des proches que nous avons joints. Tiens, c'est vachement intéressant. Tigrex Doggerland, merci à toi qui a sub tout à l'heure, nous dit, en répondant à un auditeur ou un téléspectateur, en répondant à ce monsieur, c'est Libération qui affirme ce matin que Jean-Luc Godard est mort. Voilà ce que dit France Info par exemple, sans préciser la source de son information. Vous voyez, c'est toujours les mêmes questions. Celle-ci est reprise par une partie de la presse internationale, certains me citent Reuters, certains me citent The Guardian, mais nous n'avons, dit France Info, aucune confirmation de la disparition du cinéaste pour l'instant, ce qui explique que nous ne l'ayons pas annoncé. Voilà, c'est exactement ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les journaux, tous les articles que je vous ai mis de côté, et puis on reviendra, ce que je vous propose de faire, en fin de stream tout à l'heure, sur le cas Godard, sur la confirmation ou non de son décès. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit sommaire. Une heure qu'on est ensemble, je vous fais un petit sommaire en musique de 3 minutes, même pas, un petit sommaire un peu développé de 15 minutes, et après on lit tous ces articles et on reviendra un petit peu après sur ce Jean-Luc Godard. Ok, allez, c'est parti. Rhapsody in Blue, merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu. Valsnoom 75 pour ton 11e mois, Gigablero pour ton premier mois, Mini Queenie pour ton 2e mois, vous êtes super cool, Hysteria Play pour ce 12e mois, et encore merci à David Dufresne pour son gentil raid. Alors, je vous allume Le Monde, puisque le premier article que j'ai lu pour vous, c'était dans Le Monde sur l'Ukraine. Voilà. Musique. Sommaire en musique. Caméra Zintal. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Ça parle beaucoup de retraite ce matin. et seul. C'est pas pressé et on a eu raison. Toujours attendre, toujours vérifier une info. Et effectivement, vous le voyez, je vous l'ai affiché à la fin du sommaire. Le Monde, autre quotidien de référence bien sûr, comme Libération. On est dans les médias que moi j'aime, la presse écrite, les journaux de qualité français. Le Monde confirme cette information. Le réalisateur Jean-Luc Godard est mort. Connaissant Le Monde, j'imagine mal Le Monde reprendre l'info de Libé sans la vérifier. Quelles sont les infos du Monde d'ailleurs? Hop. Au début de l'article. Voilà, donc là c'est la bio en fait, il publie directement la bio. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Libération a été le premier média français citant des proches du cinéaste à annoncer sa mort ce matin. Dans la foulée, plein de médias ont repris l'info de Libération en la citant. Le Monde, sans citer Libération, donne également cette information. Donc, ça veut dire que on a deux médias de qualité, a priori, Libé, Le Monde, qui donnent cette information. Voilà, et Défécateur m'indique que dans l'article qu'on a sous les yeux, ils le disent, Le Monde a appris, Le Monde, de son entourage, confirmant une information de libération. Donc vous avez quoi ? Donc les F, maintenant, vous pouvez les mettre, effectivement, pour rendre hommage à Jean-Luc Godard. Vous avez deux journaux qui sont des sources relativement sérieuses, bien sûr, parmi les sources que moi je préfère, bien sûr, qui donnent cette information. On peut considérer donc que Jean-Luc Godard, effectivement, est mort, puisque Le Monde confirme cette information donnée par Libération. Voilà. Ce qui va nous permettre, du coup, maintenant que cette nouvelle semble confirmée, de revenir sur la carrière du cinéaste pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et je vois que le dossier du Monde est assez complet. Alors pourquoi et comment Le Monde, notamment, peut mettre en ligne si vite, après l'annonce de sa mort, un article aussi complet, vous le savez? Eh bien, c'est parce que pour les personnalités les plus importantes, eh bien, des biographies sont déjà prêtes, voilà. Elles sont déjà écrites par les journaux et actualisées régulièrement en fonction de l'actualité de ces personnalités, de ces artistes, par exemple. Et au moment où le décès est annoncé, eh bien, la biographie sort en quelques secondes sur Internet. Parfois, il y a des accidents, d'ailleurs, la biographie sort par erreur. On avait, vendredi soir à la maison, un journaliste du Huffington Post qui a travaillé à Libération, qui a rappelé comment un jour, il y a eu un bug informatique lors d'une mise à jour du site, et vous avez une biographie comme ça d'une personnalité qui est sortie par erreur, annonçant la mort de quelqu'un qui n'était absolument pas mort. Donc le papier était prêt, comme le dit Lost in Translation. Eh bien, on va pouvoir rendre un hommage à Jean-Luc Godard et expliquer à ceux qui ne connaissent pas qui il était. Lisons cet article du Monde. Dès les années 60, Jean-Luc Godard a donc fait partie de ceux qui ont repoussé les limites esthétiques et narratives du 7e art du cinéma et incarné la nouvelle vague. Le cinéaste franco-suisse, qui laisse plus de 100 films en près de 60 ans de carrière, vous en avez peut-être vu certains, est mort le 13 septembre à l'âge de 91 ans. Hop, cliquons sur l'article. Donc, né le 3 décembre 1930 à Paris, le plus illustre des artistes franco-suisses est donc mort le 13 septembre, donc l'annonce de sa mort aujourd'hui, a appris le Monde de son entourage, confirmant une information de Libération. Il ne part pas seul, écrit Le Monde, à l'instar des morts exceptionnelles, il emporte avec lui quelque chose qui s'arrache à la conscience collective. D'abord la perte suscitée par l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, parce que c'est ce qu'il était, avec ses électrochocs d'images et de sons que son œuvre réactive dans la mémoire de ses contemporains, avec une amplitude internationale et une aire d'influence que fort peu de cinéastes français ont jamais atteinte. Donc son œuvre, et puis la nouvelle vague, donc, qu'il personnifiait plus peut-être que n'importe quel autre réalisateur. Ce moment symbolique qui fait entrer enfin ce qu'on aura appelé la modernité cinématographique dans le grand livre du cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle vague ? Le Monde commence par le rappeler. La nouvelle vague, qu'est-ce qu'on a appelé la nouvelle vague ? Cette rupture dans la façon de faire du cinéma, en fait, hein, de la modernité, née avec le néoréalisme italien du désastre de la Seconde Guerre mondiale, que Godard a incarné, peut-être plus passionnément, plus violemment, plus douloureusement que d'autres, écrit Le Monde, au point qu'il est devenu l'étendard du mouvement à l'époque aux quatre coins de la planète. Artiste au tempérament romantique, inventeur de beauté à nul autre pareil, génie de la provocation, c'était un provocateur, autodestructeur enragé, donneur autant qu'encaisseur de coups, cinéaste tour à tour adulé et honni, il ne laissait pas indifférent, Godard exige d'être placé aussi haut sur la croix des dieux torturés du cinéma moderne que Antonioni et Bergman qui l'ont précédé dans la tombe. Alors, sa filmographie, certains la connaissent, certains ont vu des films. Je vois une très belle citation de Godard qui est citée par My Little Trip dans le chat. Le cinéma n'est pas à l'abri du temps, il est l'abri du temps. Alors, sa filmographie et Le Monde qui écrit, il serait exagéré de prétendre qu'un seul film aura suffi à Godard pour se hisser à cette hauteur. À bout de souffle, premier long métrage réalisé en 1960, coup de tonnerre sans équivalent, surprise fulgurante, coup de génie, succès public, critique immédiat, choc, influence esthétique, un titre classé aujourd'hui encore dans la courte film liste des films qui ont changé l'histoire du cinéma. Voilà. Alors, l'histoire n'en est pas moins confondante de banalité. On parle de À bout de souffle, un jeune malfrat joué par Jean-Paul Belmondo, qui est tout jeune, tombe amoureux d'une jeune femme, jouée par Jean Seberg, étudiante américaine résidant à Paris. Le garçon rêve de l'impossible, la fille préfère s'occuper du possible. Elle le trahit, il est abattu par la police. Il considère en mourant que c'est dégueulasse, mot que sa fiancée ne veut ni ne peut comprendre. Le scénario tient sur une feuille de papier. Mais l'essentiel est ailleurs, nous rappelle Le Monde à propos de ce film. D'à bout de souffle, on va aller voir un petit passage, un petit extrait sur YouTube dans un instant. Dans l'art commotionné du montage, dans l'impression de liberté reconquise des corps, du langage, des esprits, on est en 1960, on est avant mai 68 en France, hein. Dans l'allure fière d'un cinéma bricolé, inspiré, qui semble avoir rajeuni de son temps. Voilà. À bout de souffle est le film inaugural de la nouvelle vague en France. Parce qu'il invente la forme qui correspond le mieux à l'esprit novateur du mouvement, parce qu'il célèbre l'avènement du jeunesse qui, au même moment, se découvre et impose ses valeurs dans la société française. C'est pas par hasard si je vous disais qu'on est à quelques années de mai 68. Allons voir d'ailleurs un extrait d'À bout de souffle. Voilà, hop, film en noir et blanc, si je dis pas de bêtises, non ? Manifestement, ça nous renvoie à autre chose, notamment parce que j'ai tapé n'importe quoi. Godard. Ah. Cet extrait est célèbre. Cet extrait est célèbre. Désolé pour la pub. Peut-être que je m'abonne à YouTube, il serait temps.
Jolie la campagne. Traduit. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Au fond, des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite a pas l'air mal. La jolie cuisse. Oui, mais l'autre. Oh, après tout, merde, elles sont trop moches.
Voilà, donc ça... Allez vous faire foutre, ça c'est célèbre. Et puis il y a la rencontre avec Jean Seberg aussi. On les voit tous les deux là. Et là on est peut-être sur la fin et la mort du héros là. C'est pas un spoil, on s'en fout que le héros meurt en fait. C'est pas l'intérêt de ce genre de film. Le scénario, il tient sur une feuille de papier. C'est la façon dont c'est filmé qui est révolutionnaire à l'époque. Jean Seberg. Belmondo. Un de ses premiers grands rôles.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Et Qu'est-ce que c'est des glaces?
À bout de souffle. Donc, premier film de Godard. Voilà, on va pas passer 15 extraits ce matin. Évidemment, ça ne ressemble pas au cinéma d'aujourd'hui. On est en 1960. À l'époque, c'est révolutionnaire. On va revenir à l'article du Monde. Pardon, à la maison, je gère un chantier en même temps. Excusez-moi. J'ai un chantier en cours. Je vais dicter, ça allait plus vite. Beaucoup de poussière parce que le mur est beaucoup plus dur que prévu. Point. Rodelia est sortie avec Solal pour éviter qu'il respire de la poussière. Point. Si tu veux passer voir ce midi, virgule, pas de souci, virgule, mais j'ai l'impression que ça se passe bien. Point. En même temps, je suis en stream, virgule, donc je ne vois pas grand-chose. Excusez-moi, je gère tout. Voilà. Ok. Voilà. Revenons donc à l'article du Monde qui vient d'être mis en ligne, hein, par le Monde. Après donc, la confirmation par le Monde suite à l'information de libération de la mort de Jean-Luc Godard, c'est ce dont on parle. On s'est regardé un petit extrait d'À bout de souffle à l'instant, le premier film de Godard. Le film qui correspond le mieux à l'esprit novateur du mouvement, c'est une nouvelle façon de tourner parce qu'il célèbre l'avènement d'une jeunesse, c'est ce qu'on disait, et qui au même moment se découvre et impose ses valeurs dans la société française en a quelques années de mai 68. Cette reconnaissance est un moment de grâce précaire dans le parcours de Jean-Luc Godard, marqué par la consommation de la révolution permanente, parce qu'il a eu une carrière avec beaucoup de, avec quelques hauts mais beaucoup de bas aussi. Donc là, on parle de son enfance, de sa famille. Voilà. L'incontestable victoire artistique et idéologique de la nouvelle vague, donc, sur le long terme, se paie sur le coup, pour l'heure, par sa banqueroute en termes d'entrée. Voilà, des films qui n'ont pas forcément beaucoup de succès. Et par l'éclatement du groupe, on parle du groupe de la nouvelle vague. Comparé par exemple à Truffaut et Chabrol, ou à Romère et Rivette, on est sur la même période, Godard apparaît comme celui qui entretient le feu sacré de la révolution permanente. Il a un côté radical dans sa démarche artistique. Elle couvre l'explosion du génie et la tentation de la terre brûlée, le rêve de la solidarité collective et l'enfoncement de la solitude. Tel sera le destin de Jean-Luc Godard, entre victoire furieuse et amère déconvenue, utopie magnifique et dérapage douteux, l'histoire d'un homme qui n'aura jamais cessé de vouloir reconstituer une famille en veillant à ce que jamais personne ne puisse combler ce désir. L'œuvre, on a vu un instant, quelques secondes de son premier film, dévolue à cette recherche ambiguë, trace un long et sinueux parcours. C'est pas un cinéma très accessible, Godard. Hein. Plus de 100 films en quelques 60 ans de carrière. Quelques grandes périodes. La première, jeune créateur insolent, bourré de talent, qui s'impose très vite comme un grand artiste. Voilà. Voilà, donc là, on cite quelques films, Le Petit Soldat, Les Carabiniers. Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part, Masculin féminin, Le Mépris, Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Pierrot le Fou, espèce de road movie rimbaldien. Écrit Le Monde, d'un couple en fuite, encore avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, qui est l'épouse de Godard à l'époque. Voilà. Une question centrale, ça c'est important, dans le cinéma de Godard, cette question. Voilà. Qu'est-ce que le cinéma? En fait, le cinéma de Godard, on peut la considérer, je ne suis pas un spécialiste de cinéma, mais d'après ce que j'ai compris, comme une réflexion permanente sur qu'est-ce que le cinéma. Donc, succès très vite pour Godard, en tout cas de la critique, de ses... des autres cinéastes en termes de considération, de respect. Succès aussitôt acquis que Godard lui-même entreprend de fragiliser, puis même d'anéantir dans ses films suivants. On en vient à 68, mai 68. L'échec de 68 radicalise sa démarche artistique, incitant Godard à refuser désormais. Et ça, c'est essentiel dans sa démarche de cinéaste. Refuser désormais de faire du cinéma selon l'industrie. Voilà. Donc en fait, il va refuser de jouer le jeu des financements. De mémoire, il va chercher beaucoup de financements par lui-même. Enfin, il fait des films avec des tout petits budgets. L'important pour lui étant de tourner. Ses films, généralement refusés par les télévisions qui les produisent, sont à peine vus. Il s'embrouille avec beaucoup de ses amis. C'est tout. Ouais, l'article fait 15 pages. C'est un boulot de fou, quoi. Donc beaucoup d'expérimentation. Et puis parfois des retours au premier plan. À la fin des années 70, il réintègre le circuit classique du cinéma, mais avec une série de fictions plus déconcertantes que jamais. On le voit avec des représentants de la Nouvelle Vague. Vous avez Lelouch. Il est là, il est tout jeune, il est à peine reconnaissable. Godard, ici, là. François Truffaut, Louis Malle et Roman Polanski. Résumé de Godard par lui-même, entretien au Nouvel Obs, on est en 1980. J'essaie de risquer la mort de ce que je sais faire comme la seule possibilité de survie. Alors il a fait tourner les plus grands acteurs d'Isabelle Huppert à Nathalie Baye, de Jacques Dutronc à Alain Dulon. On a vu Belmondo tout à l'heure. Et malgré tout, Godard, au fil des années de sa carrière, est un homme de plus en plus seul, avec une pratique qui s'inscrit dans un genre, l'essai cinématographique. Qu'est-ce que le cinéma ? Pardon, je découvre l'article quand même tant que vous, donc je le lis en diagonale pour essayer d'en tirer les passages les plus essentiels sur un article qui est très très long. Ce passage, juste de retour en compétition, où il n'a jamais rien gagné. J'en déduis que Godard n'a jamais été distingué par ses pairs, aucun prix quoi. Ah là, il y a un prix là. À 83 ans, il n'avait rien gagné. C'est où ? C'est à Cannes ? Le prix du jury. Récompense symbolique qu'il ne viendra évidemment pas chercher. Conclusion de ce long article, je vous renvoie au Monde, hein, il est en accès gratuit, sans ascendance, sans descendance, j'en conclus qu'il n'a pas d'enfant. Ainsi se sera rêvé le cinéaste sur la terre brûlée de sa vie, fils de ses œuvres, identifié à cet art total, le cinéma, dont il était écrit qu'à défaut de sauver le monde avec lui, Godard filmerait son testament en même temps que le sien propre. Est-ce à dire que le cinéma est mort avec Godard ? Bien sûr que non, mais une certaine histoire du cinéma peut-être. Sa première ligne en fut écrite dès à bout de souffle, dont le caractère de nouveauté a longtemps occulté la cruelle fin de partie qui s'y joue. Ce qui n'empêcha nullement Godard, comme tout grand mélancolique, d'être le plus vivant des cinéastes. 3 décembre 1930, naissance à Paris. Premier film en 1960, à bout de souffle. 13 septembre 2022, information confirmée par Le Monde, après que Libération a été le premier média français à l'annoncer, 13 septembre 2022, aujourd'hui, donc annonce de la mort de ce géant du cinéma français, Jean-Luc Godard. Je vous lis un petit peu, et puis allons voir peut-être aussi percuter la fiche Wikipédia de Godard, parce que parfois, mais j'ai vu autre chose là, les fiches wiki sont très très bien faites. Là, écoutez,
diversité.
Sûrement beaucoup mieux que la manière très elliptique et très limitée des mots que je viens d'utiliser sur l'œuvre de Godard, parce que je ne suis pas un spécialiste de cinéma. Je vois qu'il y a une petite vidéo de 4 minutes, 4 minutes 10, mise en ligne par Le Monde sur sa carrière. On va regarder ça. À mon avis, c'est bien foutu. Let's go.
C'est l'âme du monde. Et donc, préserver les écosystèmes naturels sur Terre comme en mer, c'est un impératif à la fois environnemental.
Il nous vire la pub, là.
Mental et financier. Mais c'est surtout un enjeu vital, au même titre que le changement climatique.
Vous avez des pubs partout maintenant. Allez, je vous cale ça. Ding, 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 ding. Oh, la pub.
Jean-Luc Godard, c'est avant tout ce film.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse ?
À bout de souffle. Une révolution cinématographique, le symbole de la nouvelle vague et la mise en avant d'une jeunesse qui, quelques années plus tard, fera sa propre révolution. Jean-Luc Godard, une vie de révolution. Né en 19...
Donc là, sur ça, je me trompais pas, 1960, à bout de souffle, on est sur quelque chose qui déjà annonce dans la liberté de plein de choses, mai 68, donc bon, c'était pas trop une énorme connerie.
1930 à Paris, dans une famille de la haute bourgeoisie protestante. Le père est médecin et la famille le suit, en Suisse, au bord du lac Léman. Il vit dans une famille aisée et pourtant le futur réalisateur se met à voler. Des proches, des amis, sa famille, de l'argent, des livres qu'il revend et même la caisse de la revue Cinéphile, les cahiers du cinéma, dans laquelle il écrit. Mais la vraie révolution de Jean-Luc Godard est cinématographique. Après À bout de souffle, chaque film est une nouvelle déferlante. Le Petit Soldat, d'abord, sur la guerre d'Algérie, aussitôt censuré en salle. Il fait tourner sa...
Putain, Godard, film sur la guerre d'Algérie, aussitôt censuré en salle, quoi. On est sans doute, je sais pas, je connais pas l'année du Petit Soldat. Les accords d'Évian, c'est 1962. Les accords qui mettent fin à la guerre d'Algérie, Le Petit Soldat de Godard, ça sort, quoi, juste avant ou juste après ? En 1960, donc il fait un film sur la guerre d'Algérie. En 1960, la guerre n'est pas finie, c'est censuré direct, c'est Godard.
Plus célèbre muse, Anna Karina.
Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent.
Il poursuit avec une méditation sur le cinéma, avec le mépris.
La femme.
L'homme.
L'Italie.
Le cinéma.
Avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli.
Puis le road movie d'un couple en fuite avec Pierrot le Fou.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance.
Mai 68, année révolutionnaire par excellence, est essentielle pour Godard. Il s'engage contre la guerre du Vietnam, réalise des ciné-tracts, sorte d'ancêtre du gif animé, et surtout, il va vers un cinéma plus militant. Anticapitaliste avec deux ou trois choses que je sais d'elle, critique des maoïstes avec la chinoise, ou encore un western marxiste-léniniste Vendeste.
Vachement bien ce portrait vidéo en 4 minutes 14 là. Vachement plus clair que ce que je vous racontais sur Godard tout à l'heure.
Nouvelle révolution, cette fois technique, avec la vidéo et un documentaire pour la télé. Puis il revient au cinéma dans les années 80 avec des stars, Isabelle Huppert et Jacques Dutronc, Alain Delon et même Johnny Hallyday. Godard multiplie aussi les références à la musique, à la peinture et à la littérature. En 1987, il reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Avec son éternel cheveu sur la langue, il prononce un discours dont lui seul a le secret.
Merci aux filles du montage négatif de LTC, merci à la standardiste de Beaumont. Car sans elle, je ne connaîtrais pas Nicolas. Merci aux employés de la banque OBC.
Enfin, Godard a opéré une révolution au sens astronomique du terme, comme un astre qui revient à son point de départ. En 1977, il est retourné vivre avec sa compagne, Anne-Marie Miéville, dans sa Suisse natale, à Roll, tout près de la ville de Nyon, où il a passé son enfance. Au cinéma, il revient sur son art dans JLG par JLG ou le monumental Histoire du cinéma. Film Socialisme, présenté à Cannes en 2010, est un adieu à ces deux utopies, le cinéma et le socialisme. En 2018, il présente Le Livre d'Images, film expérimental sur le monde arabe qui remporte une palme d'or spéciale. Godard ne s'est pas déplacé, mais il est bien là, avec son cigare et ses fulgurances, pour une ultime révolution.
Est-ce que vous avez trouvé le prochain titre ? Parce que vous avez dit déjà que vous partez d'un titre pour faire un film.
Non.
Merci.
C'est peut-être un titre qui me trouvera, si j'ai encore la chance de vivre quelques années.
merci à Sylvie Chaillette donc, du Monde pour ce magnifique portrait vidéo en 4 minutes 14. Je trouve ça extrêmement bien fait. Je pense que l'œuvre de Godard, certains l'ont compris, pour ceux qui ne la connaissaient pas, est difficile d'accès. Hein. On n'est pas sur des blockbusters, je pense que vous avez compris. Et voilà, ceux que ça intéresse, je trouve que le dossier du Monde a l'air extrêmement complet et ce portrait vidéo en 4 minutes 14 est vachement bien foutu. Voilà. Il y a d'autres articles. Voilà. Là, vous avez une interview de Godard. Là, vous avez d'autres choses. Voilà. Donc, voilà, à l'heure où on parle, il est 11h16 ce matin. J'ai appris par vous dans le chat très rapidement l'annonce par Libération, le journal Libération en premier, de la mort de Jean-Luc Godard à l'âge de 91 ans, dit Le Monde ici. Voilà, confirmé par Le Monde. On a attendu cette confirmation. Voilà. Pour en parler, parce qu'il arrive que les médias se trompent. Voilà, c'est une démarche, c'est une activité humaine et faillible. Cette information est confirmée. Et bien voilà, on a vécu ce moment d'histoire du cinéma en direct ensemble. Ce que je peux déjà vous annoncer, sans être Nostradamus, sans avoir une boule de cristal, c'est qu'il y aura beaucoup d'hommages dans les JT aujourd'hui, dans les 20h par exemple, mais dans la presse écrite que je vous lirai demain matin, je peux déjà vous assurer que la une de Libération demain, sauf énorme actualité qui le chasserait, sera, connaissant Libé, consacrée à Jean-Luc Godard. Et vous aurez sans doute, comme Libération sait le faire, une magnifique une sur Jean-Luc Godard demain, une très belle photo, un très beau titre, comme Libé sait en faire, et un très beau dossier. Voilà. Et dans Le Monde, sans doute cet après-midi aussi. Donc je vous lirai ça demain, et comme je lirai ça à tête reposée, bah mon discours sur Godard sera un peu plus construit, parce que bon, moi j'ai dû voir, comme certains ici, à bout de souffle, j'ai dû voir un ou deux de ses films, mais pas beaucoup plus, et je ne suis pas un spécialiste de ciné, donc j'ai essayé de faire avec des articles que j'ai trouvés ici, mais demain, avec les articles qu'on va lire cet après-midi et demain matin, on aura quelque chose de sympa. Par curiosité, je vais aller voir le compte Twitter de Libération, ils sont bien capables d'avoir déjà fait une, ça me semble un petit peu tôt, parce qu'une une de Libération, ça se fait pas en 5 minutes. Voilà, je suis sur le compte de Libé là. Hop. Ici. Voilà, le compte Twitter de Libé. Voilà, avec ce premier papier qu'on a vu tout à l'heure et cette photo qui est déjà très très belle. Voilà, et plusieurs tweets de Libération à ce propos. Voilà. Cinéaste total aux mille vies. À l'œuvre aussi prolifique que protéiforme, Jean-Luc Godard est mort à 91 ans. Il laisse une carrière parsemée de chefs-d'œuvre et d'incompréhension qu'il a érigé de son vivant en légende. Voilà, c'est une légende du cinéma qui vient de s'en aller. On lui rendra hommage demain matin à nouveau. Voilà pour cette info qu'on a vécue en direct ce matin. Merci d'être dans la matinée, Étienne. Maintenant, on va lire tous les papiers que je vous ai mis de côté. Je remercie les subs que je n'ai pas vus pendant qu'on regardait ces quelques extraits consacrés à Jean-Luc Godard. Enki, merci pour le deuxième mois. Pierre Hathor pour le sixième mois. Azou, merci pour le huitième mois. 56 Patato Les Ribos, merci Patato Les Ribos. 29, c'est la Bretagne qui est là. Le sixième mois, Rhapsody in Blue, merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu. Valsnum 75, Giga Blaireau, merci à tous. Allez, on y va. Je vous fais un sommaire un peu plus développé que le sommaire en musique de tout à l'heure pour vous dire de quoi on parle ce matin. On lira ce papier dans Le Monde sur ma tablette. C'est pas ici, c'est où alors? C'est ici. L'Ukraine lancée à la reconquête de son territoire. C'était la une de Libération déjà. Hier, il semblerait effectivement que les forces ukrainiennes partent à l'offensive et sont en train de regagner du terrain sur les possessions prises par les Russes ces derniers mois. On est peut-être, disait Libération hier, un tournant de cette guerre. Je vous relirai pas ces papiers parce qu'on les a déjà lus hier, puisque c'est dans pas mal de vos journaux ce matin, dans Le Monde ici, mais dans Le Figaro. En revanche, je vous lirai cet article sur ce que ça veut dire pour Vladimir Poutine et sur la fragilisation, peut-être le début de la fragilisation du pouvoir de Vladimir Poutine en Russie, ses revers militaires. Je passe aux journaux papier maintenant. Hop, celui-là, je l'éteins, on y reviendra tout à l'heure, pour vous montrer les unes des journaux papier que j'ai lus ce matin, hop, dans la matinale de France Info, et que je vous ai ramené ici. On allume la caméra zénitale, voici le Figaro. Comment les Ukrainiens font reculer l'armée russe? Ça, on en a parlé hier, c'est en replay. grâce aux armes, pour simplifier, fournies par les Occidentaux, grâce, et sa libération nous l'expliquait très bien aussi, à la capacité de l'armée ukrainienne à renouveler ses troupes, à former ses troupes, et aussi à la motivation de ses troupes qui défendent leur territoire, sans doute plus motivées que les troupes russes, dont une partie des soldats se demandent un petit peu si, ce qu'ils sont venus faire ici, eh bien les forces ukrainiennes ont ciblé la logistique russe, ont percé le front sur des points stratégiques, reprenant plus de 3000 km² à l'est et au sud. Donc ça, c'est la une du Figaro. On en parlera dans Le Monde. Et puis, il y a une info qui est très présente aussi dans Bonjour ce matin, c'est le débat sur le système de retraite. Pourquoi ? Parce que cet exécutif, ce gouvernement, a un projet de réforme des retraites. En gros, il s'agirait de, a priori, travailler plus longtemps hein, pour sauver notre système de retraite. Le gouvernement affirmant que ce système est en danger en raison d'un financement insuffisant. Il y a un rapport qui doit être remis normalement dans deux jours, le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites. Voilà. Sauf que certains journaux, comme le Figaro, en ont eu vent, ont eu le contenu, c'est un petit peu étrange, avant tout le monde de ce rapport. Et il se trouve que ce rapport va plutôt dans le sens du gouvernement, a priori. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait un problème de financement des retraites dans les prochaines années, c'est ce que dit ce rapport. Rapport qui n'appelle pas à une réforme, ça c'est une décision politique. On lira ça dans le Figaro. Voilà. Ici, vous avez le dossier du Figaro Écho là-dessus, hein, les comptes des retraites durablement déficitaires. Et dans le Figaro, je vous lirai un truc assez fou, assez dingue, sur SpaceX. Les fusées SpaceX, donc les fusées de Monsieur Musk, qui est ici, là, en photo, hop, ici, avec une nouvelle idée. Est-ce que ces fusées SpaceX hein, pourraient, un, servir dans genre d'avion hyper luxueux à des milliardaires en mode on se déplace d'un point à l'autre de la planète non pas en avion tant qu'à faire mais en fusée hein, tant qu'à, voilà, une fusée qui décolle et qui peut vous savez atterrir comme ça, c'est un peu la révolution de cette fusée SpaceX. Évidemment, hein, on va pas parler du bilan carbone de ce genre de voyage, non bien sûr, bon, mais c'est un projet. Et il y a un autre projet qui est militaire, celui-ci qui est ici dans cet article du Figaro. SpaceX, le rêve éveillé du Pentagone, avec les États-Unis, qui envisageraient le déploiement ultra rapide de forces d'intervention américaines n'importe où dans le monde en moins de 2 heures à l'aide de fusées spatiales futuristes. Avec ce type d'engin, la cavalerie surgirait de l'espace. L'idée, c'est quoi ? Aujourd'hui, pour aller envahir ou intervenir dans un pays, il faut passer par des frontières qui peuvent être terrestres, maritimes, aériennes. Il y a des espaces aériens à traverser. C'est parfois risqué, parfois il faut des accords aussi, des accords d'alliés. Là, vous auriez une fusée, vous mettez, je dis n'importe quoi, 1000 soldats dedans, ça décolle depuis le sol américain et ça atterrit hop, directement à l'endroit où vous voulez intervenir, n'importe où dans le monde en moins de 2 heures, en ne survolant aucun espace aérien, bien sûr, puisque vous arrivez directement de l'espace. C'est un vrai projet des militaires américains, on lira ça dans le Figaro. C'est la première fois que je lis un truc là-dessus. Les retraites, on en parle beaucoup ce matin. Hop, vous voyez, c'est la une des Échos. Voilà, le fameux rapport du corps. Les déficits seront durablement élevés après l'embellie de 2022. Voilà, on est en train de nous préparer à une réforme. Un autre dossier, alors j'ai un peu hésité. J'ai dit, bon, c'est quand même super sensible. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Ici, le pari, c'est qu'on peut parler de tout, bien sûr. Faut-il vraiment une nouvelle loi sur la fin de vie, ce qu'on appelle aussi parfois l'euthanasie, c'est un sujet compliqué, c'est en une de la Croix ce matin, avec le comité consultatif national d'éthique qui doit rendre aujourd'hui, c'est l'actualité, un avis quant à l'opportunité de légiférer sur l'aide active à mourir. Je vous résume le dossier qu'on lira tout à l'heure. Il y a une loi actuelle hein, qui encadre la fin de vie en France. La Croix donne la parole aux deux camps. Il y a un camp en France qui dit cette loi suffit aujourd'hui voilà, à accompagner les gens vers la fin de vie. Elle est suffisante. Voilà. Il suffit juste de l'appliquer et elle est mal appliquée. Et puis il y a les gens qui disent pas du tout. Il faut aller beaucoup plus loin que ça pour permettre aux gens, notamment les gens qui souffrent de maladies, de pouvoir, si elles le souhaitent, ces personnes, choisir la fin de vie et qu'on puisse les accompagner dans un pays comme la France. Voici le débat. Donc c'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est sensible, mais qui est un sujet qui est important, qui vous concernera, concernera peut-être l'un de vos proches un jour. Donc je pense que c'est important d'en parler. Réflexion en une de la Croix ce matin et le dossier est vachement bien fait. Décidément, c'est la journée des hommages puisqu'on a rendu hommage à Jean-Luc Godard ensemble à l'instant, quelques minutes après avoir appris sa mort, et un hommage en une de la Libération ce matin à un photographe, un autre artiste qui est William Klein, voilà, qui vient de partir. Le plus français des photographes américains, il était américain, il est tombé amoureux de la France, il vivait à Paris depuis super longtemps. Voilà, il vient de mourir à l'âge de 96 ans. Voilà. Donc, qui est William Klein? Quelle est son œuvre? Ça, c'est une de ses photos les plus célèbres, qui a été prise à New York, deux enfants, un pistolet. Voilà. Et on viendra, grâce à Libération, sur la valeur ajoutée de ce que Klein a apporté à la photographie. Voilà. Il a notamment fait descendre la mode dans la rue, les défilés dans la rue, les mannequins dans la rue, ça c'était très nouveau, et il a fait quelques photos iconiques comme celle-ci de Serge Gainsbourg sur la pochette de l'album Love and Beat, Beat, B-E-A-T, je dis ça pour la censure. Le Parisien, ben Le Parisien c'est un journal que je l'aime bien, mais j'ai pas trouvé un milliard de trucs ce matin à vous lire. Bon, le dossier de une sur les secteurs qui recrutent, c'est un classique. Quels sont les secteurs qui embauchent en France? J'ai rien trouvé très original là-dedans. Par contre, ça m'a intéressé. Article un peu perdu au milieu du journal sur le phénomène que dans les pays anglo-saxons on appelle le quiet quitting, qu'on pourrait traduire par la démission silencieuse. Voilà, plus question pour les salariés, on va dire pour certains salariés, de se tuer à la tâche. Si ce phénomène, surtout viral, reste difficile à évoluer, il souligne les lignes de fracture du monde du travail. De quoi s'agit-il? C'est expliqué ici. Le quiet quitting désigne le ras-le-bol de certains salariés qui vont se contenter de faire le strict minimum au travail. Voilà. Voilà. Exactement. Comme le dit Arnono, c'est juste l'application du droit du travail et de l'application de la fiche de poste. Voilà. Qu'est-ce que dit la fiche de poste? Que je dois arriver à 9h? Ok, j'arrive à 9h. Pas à 8h55, à 9h. Voilà. À quelle heure je dois finir le travail? À 17h30, à 18h, à 18h? Ok, à 18h. À 18h, une seconde, je suis dehors. Voilà. Et je fais ce que je dois faire. Pas plus. Pas moins, pas plus. Mais vraiment pas plus surtout. Voilà. Dans le cadre légal. Et c'est un phénomène qui se développerait, disent certains. On lira ce dossier dans Le Parisien. Et puis on finira tranquillement avec l'équipe, avec quelques résultats de foot. Notamment, bon, il y a une histoire autour de Mbappé en une de l'équipe qui ne m'a pas passionné. Ce qui me semble plus intéressant, c'est le deuxième match de Ligue des Champions de cette année de l'OM, ce soir contre l'Eintracht Francfort, après la défaite 1-0 de leur premier match. Je crois que c'était contre Tottenham. Tout Marseille attend ça. Voilà pour le sommaire. C'est cool, hein? Bon, maintenant, on va lire tout ça en prenant le temps. Two Point Cielo, Enki, Pierator. Vous êtes super sympa. Merci pour les subs, merci pour les soutiens. Et on va pouvoir y aller. Bon, pas de pause café. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une excroissance. Oh, j'ai une deuxième tête qui pousse derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Très étrange. On y va? La polémique du G7 sur les insultes à Macron, on en a parlé au début du stream, on en a parlé hier aussi. Je vous renvoie en replay. C'est une corne de licorne, tu crois? Qui pousse la non, la bosse des maths, c'est sûr que non. La corne de licorne, non, parce qu'elle est derrière, c'est très étrange, très étrange. Voilà. Voilà, peut-être que c'est mon dernier stream. Voilà, profitez, profitez. Il y a plein de messages sur l'histoire du quiet quitting, là. Sur en faire le minimum au travail, je vois que ça inspire certains. Okay. Je ne suis pas en sub only pour les rediffs. Non, les rediffs, les replays sont gratuits. Voilà. Sauf si vous insistez. Vous voulez que je mette les... C'est joli, ma... On n'avait pas de blanc là. Vous voulez que je mette les replays en sub only? Si vous insistez, je le fais. Hein. Non, c'est gratuit. Gratuit, c'est bien? Non? Ok. Non? Ok. C'est vous, hein, vous me dites. Hein. Ok. C'est ton droit, oui. Ouais, peut-être un jour, peut-être, peut-être. Mais là, c'est pas prévu du tout. C'est pas prévu. Il n'y a pas beaucoup de streamers qui mettent leur replay en sub only, si, hein? Je crois pas. Hein. Il y en a beaucoup? Je crois pas. Hein. Oh que si, me dit Eden le chien. Oh, j'en connais pas beaucoup, moi. Il y a qui? Skunkas74, merci pour le prime à l'instant. Et Iseko pour le 11e mois, c'est gentil. Ah, les gros streamers le font? Ah. Donc, les gros, si? Ah, d'accord. L'exception, c'est l'inverse. Ah bon? Domingo, Magla, Jean Massier. Ah. Ah, Jean. Tout le monde met en somonie, me dit il fut un temps. Ah. Arrêtez, vous allez me donner des idées. Du coup, je suis sur une case 74, je viens de prendre un Prime en me disant je m'abonne juste au cas où. Ok. Zera, Domingo. Ah bon? Zera? Naotech? Tous les streamers League of Legends? Popcorn? À cause des musiques, me dit Vivou? C'est ce qu'ils disent, ça. Ok. Ok. Donc Coco Lastico confirme, ils sont très nombreux à le faire, mais ajoute Coco Lastico, merci de ne pas le faire. Étoile, non. Étoile, il n'est pas en summonly, hein. Enfin, je crois, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors c'est très récent, hein. Étoile, il n'est pas en summonly, hein. Étoile. Bah, et voilà, Mabrez fait la liste de ceux chez qui c'est gratuit. Étoile, c'est gratuit. Joueur du grenier, c'est gratuit. Antoine Daniel, c'est gratuit. Ouais, pas tout le monde. Vous abusez, dit Jojo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Étoile, c'est free. Ouais, oui, j'étais sûr. Mais j'ai vu qu'il y a quelques mois, en juin, je crois qu'il se posait la question. Étoile, il en a parlé. Il a dit, je sais pas, il n'a pas pris de décision, mais il réfléchissait un petit peu à la question. Sardoche, c'est free aussi. Allez, let's go, on y va. Premier article de la matinée Étienne, que je vous ai mis de côté, l'article du Monde que voici. Donc, on ne revient pas sur ces avancées militaires des forces ukrainiennes, dont je vous ai parlé hier dans Libération. L'Ukraine lancée à la reconquête de son territoire. Je vous redonne l'info pour ceux qui l'ont raté. L'Ukraine a commencé avec succès ces derniers temps une grande contre-offensive depuis le 6 septembre. Kiev a assuré avoir repris près de 3000 km² de territoire et plusieurs grandes villes. Ça, c'est l'info. Ce qu'on n'avait pas hier, c'est cet article sur les conséquences pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine fragilisé par les revers militaires. J'ai trouvé l'article extrêmement intéressant. Attendez, il y a mon ami Joe qui m'a écrit un message. Ok. Je suis en live, virgule. Mais ok pour Pierre. Point. Je l'attends à la maison. Point. Et je regarde pour les câbles. Point. Joe, c'est mon partenaire de crime pour les streams un peu compliqués, qui vient m'épauler sur la technique. Vous allez voir, l'article est vraiment intéressant. Vladimir Poutine, fragilisé par les revers militaires, le chef du Kremlin est visé par deux appels à la destitution qui reflètent la lassitude de la population. C'est assez surprenant. Appel à la destitution de Poutine. Bon, vous allez voir, il y a peu de risques qu'il soit destitué par ces deux appels. Il y a plus de risques que les gens qui soient derrière cet appel finissent en prison, mais c'est pas inintéressant, il y a quand même un changement de climat en Russie. Deux groupes de députés municipaux à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou ont donc exigé ces derniers jours que Vladimir Poutine quitte le pouvoir sur fond de fiasco militaire en Ukraine et d'élections locales à travers le pays. Motif invoqué par les élus, cinglant, le président russe a, selon eux, failli. Le conseil des députés de la municipalité de, alors là, je parle pas russe, Smolninskoye, quartier de Saint-Pétersbourg, a envoyé une missive officielle à la Douma, qui est la chambre basse du Parlement, réclamant, ce conseil des députés de la municipalité, la destitution carrément de Poutine. Le texte indique que les hostilités en Ukraine nuisent à la sécurité de la Russie et de ses citoyens, ainsi qu'à l'économie, et qu'elles ne sont pas parvenues à arrêter la progression de l'OTAN vers les frontières russes. Selon ces élus municipaux, les actions du chef de Kremlin relèvent de l'article 93 de la Constitution, selon lequel le président peut être démis de ses fonctions pour trahison. Ouhou. L'auteur de l'appel, un certain Dmitri Paliuga, l'a publié sur Twitter, on va dire qu'il a peur de rien lui. Le député soutient que Vladimir Poutine est responsable de la mort d'hommes russes valides, du déclin économique national, de la fuite des cerveaux depuis la Russie et de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Tout ça. Moins acerbe et ne comportant aucune référence à la guerre en Ukraine, la lettre adressée à Vladimir Poutine par des députés municipaux d'un autre quartier, cette fois de Moscou, invite elle aussi le chef de l'État à démissionner. Des études, je cite le communiqué, pardon, je suis un petit peu enrhumé, montrent que les habitants des pays où le pouvoir change régulièrement, on va dire c'est pas comme la Russie, vivent en moyenne mieux et plus longtemps que dans ceux où les dirigeants ne quittent ces fonctions que les pieds devant, écrivent les élus, en référence bien sûr aux 22 années passées à la tête du pouvoir par Poutine. 22 ans quand même. Bon, parfois il se faisait remplacer, mais le vrai patron c'était lui. La rhétorique que vous et vos subordonnés utilisée a longtemps été empreinte d'intolérance et d'agression, ce qui a finalement replongé notre pays dans l'ère de la guerre froide. La Russie, dit ce communiqué, a recommencé à être crainte et haïe. Nous menaçons à nouveau le monde entier avec des armes nucléaires, poursuit cette lettre qui s'achève ainsi. Nous vous demandons de vous retirer de votre poste, car vos opinions, votre modèle de gestion sont désespérément dépassés et entravent le développement de la Russie et de son potentiel humain. Ce sont des Russes qui le disent aujourd'hui, malgré une liberté de parole qui est celle que vous imaginez en Russie. Les 7 députés municipaux de Saint-Pétersbourg ont été rapidement convoqués par la police avant d'être relâchés, ce qui ne signifie pas que cet appel sans précédent en Russie, et c'est pour ça que je vous en parle, restera impuni. Le 8 juillet, le député municipal Alexei Gorinov a été condamné à 7 ans de prison pour avoir exprimé son opposition à la guerre en Ukraine. Le procès arrive dans pas longtemps. C'est un acte très courageux, estime Mikhail Lobanov, qui est un opposant de gauche. Ils ont publiquement exprimé ce qu'ils pensent. Malheureusement, je suis sûr que dans la Russie actuelle, ils rencontreront de gros problèmes. Il est clair qu'aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes dans notre pays sont insatisfaites de ce qui se passe, mais elles ont peur de parler. Elles ont peur de parler. Elles ont peur d'écrire. Elles ont peur de publier. La démarche de ces deux appels n'a aucune chance d'aboutir, bien sûr, à une destitution de Poutine, hein, on ne va pas rêver. Relève en revanche d'une lassitude, voire d'une frustration sourde de l'électorat russe devant une campagne militaire qui dure depuis plus de 6 mois maintenant sans donner les résultats promis par le président Poutine. Encore timide, la révolte gagne par ailleurs d'autres milieux nationalistes, ceux-ci, ulcérés par le fiasco de l'armée russe en Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv. Une partie d'entre eux, sous la houlette d'un ancien chef de guerre qui s'appelle Igor Girkin, place la responsabilité des échecs directement sur les épaules de Poutine. Celui-ci n'aurait effectivement pas mis suffisamment de moyens pour vaincre l'adversaire, en particulier en refusant d'opter pour la mobilisation générale. Poutine n'a toujours pas décrété la mobilisation générale de tous les hommes en âge de combattre en Russie pour cette guerre, puisqu'il a dit que ce n'était pas une guerre et que c'était une opération spéciale. Voilà où on en est de cette guerre en Ukraine. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec la presse papier que j'ai mis de côté pour vous. Tac. Alors, t'es loin, écrit, je ne pense pas que Poutine va se laisser faire. J'ai même l'impression qu'il va augmenter les moyens mis, voire y aller vraiment à 100%. S'il perd cette guerre, il subira le même sort que l'URSS, car les gens se rendront compte qu'il n'est pas invincible. Bravo à ces hommes, dit Tetel Bezedach en parlant des conseillers municipaux qui ont eu le courage de faire cet appel, mais je crains que ça ne mène à rien de bon pour eux. Ah, il y a un soutien de Vladimir Poutine dans le chat que je salue. Leaderboard, salut. Quand ça vous arrange, on dit que la Russie bloque les médias. Mais étrangement, les infos anti-Poutine arrivent sans problème dans ces journaux français qui sont aux mains des oligarques français. Bien sûr que il y a un complot. Merci de cette info. Sacré père de les signataires, me dit Wallart. Ils n'ont pas peur, mais ils ont raison. Dangereux comme initiative. Je crois que vous rejoignez tous pour saluer le courage de ces conseillers municipaux. En train de vous lire. Ok, on aura l'occasion d'y revenir. Cette guerre n'est pas terminée. Skunka74, je sais plus si je t'ai remercié. Dans le doute, je le refais. Hop, on débranche la tablette puisque c'est OK pour le Monde. Et je lirai bien sûr cet après-midi la prochaine édition du Monde pour vous demain matin, avec sûrement notamment un bel article sur Jean-Luc Godard. Allumage de la caméra zénitale avec un Z, bien sûr. Un Z comme, je sais pas, un Z comme Zorro. 3, 2, 1, et boum, le Figaro, donc également des papiers sur l'avancée de l'armée ukrainienne face aux forces russes. Donc ça, on a déjà parlé avec Libération, donc je ne reviens pas sur cette actualité. Non, on va parler de ça, on va parler des retraites en France. Un Z comment? Un Z comme Zeni, me dit Cyril. Un Z comme Zerator, me dit Lucie. Un Z comme Zorro. On va beaucoup parler de retraite dans les mois qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement, un exécutif qui veut faire une nouvelle réforme des retraites, qui dit qu'on a besoin d'une nouvelle réforme des retraites, qu'il va falloir travailler sans doute un petit peu plus longtemps pour assurer le financement du système de retraite et puis aussi pour financer d'autres choses comme le financement de la dépendance, la santé et l'éducation, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la conviction de l'exécutif. Alors après, il y a les syndicats qui ne sont pas du tout d'accord, qui disent mais non, mais on n'a pas du tout besoin d'une réforme des retraites. Où est la vérité? Ça, c'est à vous de vous faire votre opinion. En tout cas, on a un rapport qui devait sortir dans deux jours, le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites, et qui finalement est sorti un petit peu dans la presse, notamment dans le Figaro, donc je vous en parle. Le rapport annuel du corps, qui fait état d'un excédent, bah, tout va bien alors, d'un excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022, bah, il y a des sous. Grâce à la forte reprise économique, au dynamisme du marché de l'emploi, c'est la 1, la reprise après la crise, du Covid, mais, non, il n'y a pas des sous, ça ne va pas durer, mais sur le long terme, un problème qui reste entier, parce qu'en fait, voilà, ce bénéfice va rapidement fondre, le système va demeurer structurellement déficitaire, sans préciser comment le gouvernement entend toujours mener une réforme en 2023, à laquelle les syndicats sont fortement opposés, à ce jour, on ne sait pas à quoi va ressembler cette réforme. Je vous mets dans le Figaro un article de côté sur SpaceX, et je vais chercher dans le Figaro, mais dans les pages écho, les jolies pages saumon du Figaro, l'article sur les retraites. Les comptes de retraite durablement déficitaires, donc c'est ce rapport du corps qui nous le dit, aucun retour à l'équilibre n'est prévu au mieux avant le milieu des années 2030-2035, donc oui, c'est dans un petit moment quand même. Selon ce rapport, apparaître jeudi, mais on sait à peu près ce qu'il y a dedans, le système des retraites ne reviendra pas à l'équilibre financier avant ce moment. Des projections qui confirment pour le gouvernement Borne la nécessité d'une réforme paramétrique via un relèvement de l'âge de départ, on partirait plus tard, on travaillerait plus longtemps, sur laquelle Olivier Dussopt, qui est le ministre du Travail, lancera la concertation avec les partenaires sociaux lundi prochain. Les syndicats de salariés, qui craignent une mesure dans pas longtemps, une réforme dans pas longtemps, une mesure dès cet automne, se mobiliseront en cas de passage en force de l'exécutif. Allons voir l'article, page 25, il est là. Je lis. Reporter, mais pas annuler la réforme des retraites qui reste en stand-by avec un gouvernement qui envisage toujours son entrée en vigueur à l'été 2023. Ce truc va arriver beaucoup plus vite qu'on ne croit. Les syndicats qui sont unanimement opposés s'inquiètent. Ils craignent qu'une mesure soit subrepticement, j'adore ce mot, glissée dans le projet de loi de financement de la Sécu dès cet automne. Donc ça pourrait arriver très vite. Alors ça pourrait être quoi? Par exemple, le relèvement de l'âge de départ à 64 ans ou 65 ans ou l'accélération de la réforme Touraine de 2014 qui viendrait à augmenter plus vite que prévu le nombre d'annuités requis, hein, d'années de cotisation, de trimestre, 43 ans en 2032, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors, de son côté, quelles sont les théories en présence? Merci Alexandre pour le deuxième mois d'abonnement, c'est adorable. De son côté, le gouvernement a un besoin vital de cette réforme. Pourquoi? Alors, c'est pas tellement. Donc là, on est un petit peu dans l'analyse. C'est pas tellement l'histoire du financement des retraites, parce que oui, le système est un peu déficitaire, mais quand on voit les sommes, on pourrait décider de financer ce déficit, voilà, pour laisser à peu près les retraites là où elles sont aujourd'hui. Hein, ça pourrait être un choix politique. Mais le gouvernement le dit lui-même. Oh, j'avais pas vu un raid de Martin Martin. Martin Martin M2X, le meilleur DJ du Twitch français. Allez voir sa chaîne. Martin Martin M2X, il stream le matin, et il stream le soir, il est infatigable, et il a une énergie incroyable. Martin Martin, merci. Pour ton raid, tu n'es pas encore en âge, mais on parle de la retraite. Funky Plant, 26, avec un pseudo comme ça, je pense que tu aimerais bien la chaîne de Martin Martin, merci pour ton sub. Donc le gouvernement d'à côté dit pas, il faut absolument réformer les retraites parce que sinon le système va cracher. Il dit pas ça, le gouvernement. Il dit, on a un besoin vital de cette réforme parce que c'est le levier dont on a besoin pour dégager des marges budgétaires, pour renflouer les caisses de l'État et financer de nouvelles choses, des mesures sociales sur l'école, sur la santé, sur la dépendance. Voilà. Donc l'État ne dit pas il faut absolument réformer le système des retraites parce que le système va cracher. L'État dit surtout, en fait, les retraites, c'est énormément d'argent, et si on arrive à faire un peu d'économie, avant, on va pouvoir financer plein de choses formidables comme l'école, comme la santé, comme la dépendance, réduire le déficit, etc. Voilà un petit peu le discours de l'exécutif aujourd'hui. Les syndicats ne veulent pas entendre parler. Face à ce blocage entre d'un côté les partenaires sociaux et l'État, enfin le gouvernement, pardon, le juge arbitre devrait être ce fameux conseil d'orientation des retraites, le COR, dont le rapport annuel, qui devait sortir donc jeudi, a fuité. D'après ce rapport de 346 pages dont le Figaro a obtenu une copie, le système de retraite a dégagé un excédent de 900 millions d'euros en 2021, première depuis 2008, un surplus même de plus de 3 milliards cette année. C'est la reprise de la croissance. Croissance, embauche, emploi, cotisation, excédent. Mais ce retour à une meilleure fortune ne sera que de courte durée. Dès 2023, dès l'an prochain, le solde des régimes de retraite sera à nouveau dans le rouge. Alors, comme à chaque fois avec un rapport du COR, c'est très intéressant, les partisans d'une réforme des retraites et les opposants à la réforme des retraites se servent en général des mêmes rapports du COR, sauf qu'on n'en tire pas les mêmes conclusions. C'est très très drôle. Donc, le Figaro écrit, comme à chaque fois, chacun y verra le verre à moitié plein ou à moitié vide. pas mal ça. 3, 2, 1. Ok, cool, on se cale ça pour la fin du stream. J'aime bien pour le raid de tout à l'heure. Merci d'avoir patienté. J'ai une très mauvaise nouvelle. La cuisine est donc en chantier depuis, depuis quelques heures ce matin. Voilà, on a décidé d'abattre un mur. Je ne sais pas si c'est l'idée du siècle. L'appartement est couvert de poussière. Je pense que ce setup ne marchera pas demain parce qu'il y aura de la poussière partout. Les machines à café ne sont plus accessibles. Elles sont d'ailleurs couvertes de poussière, elles aussi. C'est une catastrophe. Plus de cuisine, plus de murs, plus de café, plus de setup, c'est le bordel. Donc, j'ai même pas pu me refaire un café. Voilà, c'est la poussière, Étienne, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un stream sponsorisé par Evian. Désormais, voilà, c'est chaud. Je ne sais pas où on va. C'est pas où on va. Ah, c'est ça l'eau en fait. Ah, c'est ça ce goût. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est ça. Parce que l'eau que je bois, moi, c'est surtout celle du café en fait. C'est pas pareil. Hein. Ah, mais c'est bon aussi. Ah ouais. Ah, on sent que c'est. On sent que c'est ça en fait. Ah, c'est ça. C'est ça que les gens boivent en fait. Pas mauvais en fait ce truc. Ok. Anonyme, ça c'est le goût du plastique surtout. Vous êtes trop fort. Ah bon. Donc, bah oui, bah oui, je sais. Il y a chocolatier. Oh, chocolatier pour le garde. Mais c'est la chaîne du. Oh, attendez, si je clique sur ton pseudo, je vais voir ta chaîne. Hein? Allez, je fais une petite pub. Hop, je suis sûr que. Est-ce que je tombe sur ta chaîne? Tout, page de pub. Voilà. Regardez, un streamer chocolatier qui nous regarde. Chocolatier Paul Garderesse ou Gardeur? Comment je prononce? Je sais pas. Et je sais que c'est un chocolatier qui stream. Regardez. Bienvenue sur la chaîne du chocolat. Je m'appelle Paul, mais tu peux m'appeler Paul. Bon, je vais t'appeler Paul alors. Et je suis artisan chocolatier à Pau. À Pau ou à Paul? Excellent. On fait aussi de la pâtisserie, de la confiserie, du blabla. Alors rejoins-nous pour qu'on boive un bon chocolat. Je te suis pas? C'est pas possible ça. Mais si, je te suis, c'est fait. Un bon chocolat chaud en échangeant des recettes et autres secrets chocolatés. Trop bien. Voilà, petite page de pub. Merci d'être avec nous ce matin, c'est super gentil. Voilà, ça c'est fait. Je viens de découvrir le goût de l'eau, Paul. C'est super bon, hein. Paul Garder. Ah, c'est bon. Ah, mais il y a Garderesse. Donc c'est Paul Garder? Merci, Paul. Pas mal, hein. Ok. Bon, allez, suite de la matinée Étienne avec cet article. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce truc. Regardez, je vous montre. Tadam. Attention, l'histoire de SpaceX. C'est dans le Figaro. C'est page 18. Fusée SpaceX, le rêve éveillé du Pentagone des militaires américains. Les États-Unis, lisez bien, c'est vrai, c'est pas inventé, c'est de l'info, envisagent le déploiement ultra rapide de forces d'intervention américaines n'importe où dans le monde en moins de 2 heures. C'est une dinguerie. À l'aide de fusées spatiales futuristes, avec ce type d'engin, la cavalerie surgirait de l'espace. On est en plein film de science-fiction, sauf qu'ils y pensent très sérieusement. Histoire. En fait, c'est un vieux rêve, nous raconte le Figaro, un vieux truc qui naît dans les années 50, le déploiement ultra rapide de forces d'intervention américaines n'importe où dans le monde en moins de 2 heures à l'aide de fusées spatiales. Imaginez un président américain, au hasard Trump, qui décide. Un matin il se lève, il est de mauvaise humeur et voilà, il lit un tweet qui le met de mauvaise humeur, il dit ah, c'est bon, il me casse les couilles. L'autre là, allez, let's go, opération militaire. 2 heures plus tard, les soldats américains peuvent être dans le pays, même s'il est de l'autre côté de la planète. Bam, bim, direct. À mi-chemin entre la bande dessinée, on a marché sur la lune d'Hergé et le roman de science-fiction Starship Troopers, et ça, je savais bien que ça me rappelait un truc, de Robert Heinlein en 59, qui s'est mué en film, en blockbuster maintenant, depuis 97, vous le savez aussi. La technologie liée à ce vieux rêve américain qui date des années 50, en tout cas de l'armée américaine, peut-être pas de tous les Américains, la technologie demeurait le maillon faible jusqu'à l'événement de Space Exploration Technology Corporation, SpaceX, la firme fondée par Elon Musk, aux fins de relancer la conquête spatiale. Le 5 mai 2021, le monde découvre stupéfait la fusée Starship SN15 atterrissant verticalement, hein, espèce de révolution. L'objectif est d'emporter des équipages vers la Lune, vers Mars, et de les ramener ensuite sains et saufs, c'est mieux. Le Pentagone, informé en amont, n'en a pas raté une miette. Donc là, on a un rapport confidentiel qui a été déclassifié récemment, qui préconise la création d'une force de réaction rapide prenant place à bord de fusées Starship. Voilà. La cavalerie donc viendrait désormais de l'espace. L'utilisation de fusées présente un avantage évident. En passant par l'espace suborbital pour aller d'un point A à un point B, l'aéronef en question s'affranchit de toute autorisation de survol d'un espace aérien, ami ou ennemi, et s'expose moins à la défense antiaérienne. Elon Musk juge le projet réaliste, c'est ce qu'il a dit. À la question que posait un internaute sur les capacités de transport intraterrestre avec ses fusées Starship, il répondait 1000 passagers. Hein, c'est des fusées qui pourraient emporter 1000 passagers ou 1000 militaires. Hein. 1000 passagers, tous en classe économie, pas de toilettes, avec un espace pour les pilotes et un coin restauration. La plupart des vols ne prendraient que 15 à 20 minutes, donc quand on parle de tourisme spatial, on parle ici en gros d'un missile balistique intercontinental capable de voyager à Mach 25 qui pourrait atterrir. Faisabilité pour Elon Musk, 5 à 10 ans. Mach 25, c'est 5 fois le mur du son. C'est l'équivalent de 28 200 km/h, donc c'est assez rapide. Un rêve éveillé pour tout responsable des forces spéciales, confronté par exemple à une attaque terroriste ou un débarquement amphibie sur les côtes de Taïwan. Voilà. Le Pentagone se dit qu'une fusée comme ça, capable d'envoyer 1000 soldats à n'importe quel endroit du globe en l'espace de 2 heures maximum, en cas d'attentat, en cas d'attaque terroriste, en cas de débarquement amphibie chinois sur les côtes de Taïwan, où il faudrait réagir très très vite, eh bien ce serait possible. Voilà, c'est un peu le game changer que permettraient ces fusées SpaceX. Voilà. Je vous lis un petit peu là-dessus. Le mot réaliste dans la bouche d'Elon Musk n'a pas la même définition que pour nous, me dit Lucie Nature. Pas très écologique tout ça, Yanis, je crois que tu n'as pas tort. Je crois que tu n'as pas tort. Il y a TNTN qui rigole. Ah, les grandes avancées technologiques au service de l'espèce humaine. Oh, wait. Oui, bah oui, là, c'est oui. T'as de belles mains, Samuel. C'est faux, mais c'est gentil. Et la planète dans tout ça, demande Sol Tricarenchi. Bah oui. Ouais, Musk habitué des annonces rocambolesques, nous dit Jean du Turfu 1, pour créer une hype et lever des fonds. Voilà. Oh, Elfimac est déjà en mode combat. Petit missile Stinger à l'arrivée et 1000 soldats en moins. Voilà. Le calamar de guerre. C'est vrai que ça ressemble à un calamar, ce truc. C'est vrai que ça ressemble à un calamar. Ça ressemble à quoi, ce truc, selon vous là? Ah, un calamar, c'est pas faux. C'est pas faux. Quelqu'un qui vient de poster un message en chinois. Là, du coup, je lis pas le chinois. Désolé. Putain, j'ai pas dit bonjour au modo ce matin, hein. Ami, êtes-vous Francis, Harmonie, Julo, la fille du Père Noël, Maj, Milamber, Nightbot. Petit dragon vert de rage, Takayov, Gineco. Enfin, je vous dis bonjour tout à l'heure, mais c'était il y a longtemps. On enchaîne. C'est du japonais? Ah, c'est du japonais? Ah, bah, je parle pas japonais non plus. Ça disait quoi? Oh, qu'est-ce que tu as de belles mains, Samuel, en japonais? Bon, les retraites, je vous disais, on en parle beaucoup. Je vous l'ai lu le dossier du Figaro, c'est aussi à la une des Échos. Le chef de l'État veut convaincre les partenaires sociaux de la nécessité d'agir vite. Alors, j'ai deux infos maintenant. Un truc très 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 sérieux. Un truc un tout petit peu plus léger, quoique. Vous votez pour quoi? Un truc super léger, genre l'euthanasie, la fin de vie? Ou un truc sur le fait qu'on est de plus en plus cool par rapport au travail et qu'on n'a pas trop envie de se casser le dos pour l'entreprise? On commence par la croix.
Okay.
Je vous mets le Parisien de côté, vous aurez aussi le droit à ce bel article du Parisien. Bon, ça c'est pas le truc le plus léger dont je vais vous parler, mais c'est important, peut-être que vous y serez confronté un jour, peut-être que l'un de vos proches y sera confronté, la question de la fin de vie, ce qu'on appelle parfois l'euthanasie. Est-ce qu'il faut vraiment une nouvelle loi pour encadrer la fin de vie, l'euthanasie. Il y a Bob Patrouille qui dit dur le sujet. Bah oui, mais il faut. Mais ici on parle de tout. C'est important. Le Comité consultatif national d'éthique doit rendre aujourd'hui un avis quant à l'opportunité de légiférer, de faire une nouvelle loi sur ce qu'on appelle aussi l'aide active à mourir. Let's go. La question, boum, elle est résumée ici. La loi actuelle sur la fin de vie ne suffit-elle vraiment pas? Depuis 2016, on a une loi en France qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie en France, vous le savez peut-être. Un texte qui est trop restrictif pour les partisans de l'aide active à mourir, qui estime que la loi d'aujourd'hui ne répond pas à toutes les situations. L'article de la Croix est vachement clair sur un sujet qui est très compliqué. Une loi qui permet déjà beaucoup et qui devrait être mieux appliquée, répondent les opposants à l'euthanasie, ceux qui ne veulent pas que la loi n'évolue pas. Lisons ce dossier. L'argument est brandi par les partisans de l'euthanasie ou du suicide assisté. La loi Claeys-Leonetti, adoptée en 2016, ne permettrait pas de répondre à toutes les situations de fin de vie, créant in fine de la souffrance. Et c'est à ce titre que le législateur aujourd'hui devrait aller plus loin. C'est en tout cas la conviction d'Anne Vivien, qui est anesthésiste, réanimatrice, qui est aussi vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD, qui dit, qui rappelle qu'il y a une loi de 2002, complétée en 2005 par une première loi Leonetti, selon laquelle un patient qui le souhaite peut aujourd'hui demander la limitation ou l'arrêt de ses traitements. La loi de 2016 a complété tout ça, donc c'est le cadre législatif d'aujourd'hui qui ajoute à cette possibilité donc de demander l'arrêt par un patient de ses traitements, la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès qui altère la conscience pour faire dormir avant de mourir. Alors Pierre Vie pose une bonne question qui dit « La Croix, journal catholique, journal chrétien, avec le rapport à la question de... »
Bonjour.
Excusez-moi, j'ai une vidéo qui vient de s'ouvrir. Voilà, c'était une vidéo sur Jean-Luc Godard tout à l'heure. La Croix, donc journal chrétien, avec son regard de journal aux valeurs chrétiennes et catholiques sur la question de la mort, de l'euthanasie et du suicide. Et donc la question de Pierre, elle est très très très, très pertinente. Est-ce que le regard de la Croix est objectif sur le sujet? Eh bien, ce qui est intéressant, parce qu'en lisant ce dossier, j'avais ça en tête, eh bien, la Croix arrive à prendre de la distance par rapport à ça et présente objectivement les arguments des deux camps, mais en ne prenant pas parti dans ce dossier. Et je dis GG à la Croix là-dessus, parce que c'est du bon boulot. Donc, la loi de 2016, elle ajoute à la possibilité d'arrêter les soins la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Seulement, disent les partisans d'aller plus loin, cette sédation ne peut être mise en place que si le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire à quelques jours seulement. Hein. On ne fait ça que si la personne s'apprête à mourir. Or, il y a des situations où la maladie est incurable, on ne sait pas soigner, on n'arrive pas à soigner, on n'arrive pas parfois à calmer les douleurs, mais la maladie n'entraîne pas le décès à court terme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et on donne des exemples. Vous voyez, la Croix joue le jeu. Hein. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Charcot qui emmure le patient dans le corps. Hein. La mort arrive parfois après beaucoup de temps. Et puis il y a d'autres maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, les séquelles d'AVC, les cancers, énumèrent les partisans d'une nouvelle loi. Ce critère de court terme interdit d'abréger ces souffrances-là. Faut-il vraiment imposer aux patients une lente dégradation, les obliger à attendre les tout derniers instants pour être dans les clous de la loi? Donc ces cas-là sont des zones grises qu'on cède. Alors on va écouter maintenant un partisan de l'autre camp qui estime que la loi suffit. Là, c'est Sarah Doshi, une autre femme qui est psychiatre. Elle est directrice scientifique du Centre national sur les soins palliatifs et la fin de vie. Elle dit que la loi est très bien faite. Sauf pour ces situations spécifiques, c'est vrai, ces zones grises, sur le fil où le patient est entre deux. Voilà. Une autre femme, qui est la vice-présidente de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, qui s'appelle Ségolène Perruccio, elle dit que la loi actuelle permet de prendre en charge toutes les maladies. Même les SLA, même les suites d'AVC. Un malade atteint de la maladie de Charcot devrait, attention, le conditionnel est super important, devrait être admis en soins palliatifs dès l'annonce du diagnostic. Ce qui ne veut pas dire qu'il est tout de suite hospitalisé. Mais on va mettre en place des traitements pour soulager ses symptômes, l'aider sur le plan respiratoire, l'orienter vers des aides humaines et techniques, voilà, à améliorer sa vie, quoi. La majorité des demandes de mort s'éteignent lorsqu'un accompagnement adapté y répond, assurent les médecins qui ne veulent pas d'une nouvelle loi. La loi actuelle se suffit à elle-même, si on la lit jusqu'au bout, c'est la culture palliative qu'il faudrait mieux diffuser avant de vouloir tout bouger. Que disent les gens qui sont partisans du maintien dans le statu quo actuel ? Il y a une loi qui permet déjà de faire des choses pour les gens qui souffrent, les gens qui ont des maladies graves. Sauf que disent ces gens ? Cette loi, elle n'est pas appliquée. Cette loi, elle n'est pas appliquée parce qu'il n'y a pas une culture en France, une culture des soins palliatifs. Donc ces gens reconnaissent que la loi existe, mais en fait, qu'elle n'est pas appliquée par notre système médical. Et que, avant donc, la logique de ces gens, c'est avant une nouvelle loi, il faudrait déjà appliquer la loi. Derrière cet appel, le constat habituel en matière de fin de vie. Voilà. Alors, on revient maintenant, et c'est là où la Croix fait bien le boulot, aux partisans d'aller plus loin. Hein. Anne Vivien, la médecin de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, elle dit « aussi bien appliquée cette loi actuelle Claes Neonetti serait-elle, aussi nécessaires les soins palliatifs sont-ils, et il existera toujours, et il existera de plus en plus, avec les revendications d'autonomie, des personnes qui ne veulent pas supporter une lente détérioration de leur état. » Et donc, cette association, elle dit « qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là » Vous voyez, la Croix donne vraiment les arguments des deux camps. Je trouve que c'est un joli boulot. Je trouve que c'est bien fait. Voilà. Comme le résume une autre personne interrogée par la Croix, c'est l'esprit de la loi actuelle. Elle a été rédigée pour les patients qui vont mourir et non pas pour les patients qui veulent mourir. Et là, on arrive sur plein de questions. Si on doit changer la loi. Est-ce que la médecine doit répondre à toutes les demandes ? Si la médecine commence à répondre à toutes les demandes, où s'arrêter ? On va autoriser d'abord l'euthanasie en cas de douleur physique, et puis après on va se poser la question, pour la souffrance psychique, est-ce qu'il faut accepter de donner la mort à quelqu'un qui demande la mort parce qu'il souffre non pas d'une maladie, non pas de douleur physique, mais de douleur psychique ? Pour les empêchements de la vieillesse, comme la surdité, la cécité, si elles sont jugées invalidantes, bon, la question qui est posée, c'est jusqu'où on va ? Quels critères ? C'est le débat aujourd'hui, je trouve que la Croix pose bien la question, sans trop donner son avis, malgré le prisme catholique et chrétien de ce journal. Et puis, il y a un volet politique à cette histoire, parce qu'évidemment, s'il y a une nouvelle loi, il faudra que ça passe par le Parlement. Et la Croix nous explique que le président Macron est sorti de sa réserve sur cette question le 17 mars, c'était avant la présidentielle. Il officialise son projet de convention citoyenne. Vous vous rappelez de la convention citoyenne pour le climat ? Le grand truc là, qui a donné pas grand chose, eh bien, il va y avoir, a priori, une convention citoyenne sur la fin de vie. Là, dans pas longtemps, je soumettrai la fin de vie à une convention citoyenne, a-t-il dit, et sur la base des conclusions de celle-ci, je soumettrai ou à la représentation nationale, donc à l'Assemblée, ou au peuple, donc référendum, le choix d'aller au bout du chemin qui sera préconisé. Bon, il a dit ça. Donc, dans la foulée de l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la fin de vie qui doit être publié aujourd'hui, c'est dans l'actu, une communication de l'Élysée est attendue pour commencer à préciser les modalités de cette convention citoyenne. Emmanuel Macron semble décider à accélérer. Bon. Voilà. Alors, plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut laisser la loi comme elle l'est ? Est-ce qu'il faut mieux l'appliquer ? Est-ce qu'il faut faire évoluer la loi ? Jusqu'où on va pour accepter les requêtes de personnes souhaitant mourir, qu'on leur donne la mort, qu'on accélère la fin de leur vie. Quid de cette convention citoyenne ? On a vu ce que ça donnait pour le climat. Qu'est-ce qui va sortir de cette convention citoyenne sur la fin de vie, sur l'euthanasie ? Voilà. Est-ce qu'effectivement, ça va déboucher sur quelque chose ? Est-ce que ça sera repris dans une proposition de loi ou un projet de loi ou sur un projet de référendum ? Bon, là, on est dans l'interrogation. En vrai, si vous vous intéressez à ce sujet, le dossier de la Croix est vachement bien fait. Ça, c'est la presse écrite, c'est la qualité. Je dis bravo. Le Parisien. Je vous ai pas trop lu là-dessus. Je vais vous lire un petit peu sur l'euthanasie. Là. Peut-être. Ah, l'eau, c'est bizarre, hein, l'eau. Hein. C'est comme le café, mais ça... Voilà, Lord Gibus pose une des questions. Voilà, jusqu'où on va ? Lord Gibus qui écrit... Même si sans douleur, mais voilà, j'ai 108 ans, j'entends plus rien, je vois plus rien, j'ai pas d'enfant, j'en ai marre de survivre avec 400 euros par mois, est-ce que j'ai pas le droit de décider, quoi, de partir ? Voilà. Vous êtes plusieurs à vous interroger sur cette convention, ce qu'elle donnera. Joli. Hein. Ah, Xineco. Très bien. Le problème est que dans l'imaginaire collectif et encore dans celui des soignants, les médecins particulièrement, soins palliatifs égale mort imminente. Travaillant, me dit Xineco, dans le secteur médico-social, combien de fois on a dû se battre avec un médecin refusant qu'on fasse appel aux équipes de soins palliatifs car il n'est pas si mourant, alors qu'on voulait mettre en place un traitement antalgique, donc pour soulager la douleur, car ceux de base ne suffisaient plus. Ça, c'est intéressant. On a un problème, vous savez, en France notamment, quant à la prise en charge de la douleur, ça a progressé un petit peu, assez, mais pas encore assez. Oh, Nicoco, c'est gentil, c'est très abusé, mais c'est très gentil. Je suis en cours de philo, tu es mon idole, c'est gentil. C'était mon cours préféré quand j'étais au lycée, ça. Qu'est-ce que j'ai kiffé la philo, putain. Je voulais faire que ça, moi le reste, ça me saoulait. Mais la philo, quel bonheur. Je savais que ça parlerait de situation personnelle. Vega de la lire. Mon grand-père nous demandait de l'achever sur son lit de mort, et on pouvait légalement rien faire alors qu'il souffrait considérablement depuis des mois, cette loi est un mirage. C'est un sujet très important. Ah, Nephilim travaille en EHPAD en maison de retraite et nous dit qu'il y a beaucoup de liens avec l'équipe de soins palliatifs. Bon, bah, c'est un bon EHPAD alors. On n'est pas obligé d'être en fin de vie. Certains, c'est pour améliorer la douleur. Bien sûr qu'on est en train de progresser en France sur ces questions. Il était temps, mais je pense qu'on a encore beaucoup de retard. Je vais arrêter de lire des messages parce que certains, je les trouve très, très forts et me renvoient des choses que j'ai vécues et que certains ont déjà vécues. Je lis juste le dernier message et on passe à autre chose. Message de My Little Trip. Un jour à 1h du mat, on m'a appelé pour donner mon accord pour endormir définitivement ma mère. J'avais 3 médecins d'un CHR devant moi. N'est-ce pas déjà une forme d'euthanasie officieuse, même si les médecins ne l'avouent pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je vais arrêter de lire des messages parce que c'est un peu chaud comme sujet. Allez, on passe à un truc plus léger. C'est le monde du travail, c'est ceux qui disent à un moment, allez stop, j'en peux plus, excusez l'expression, de me casser le cul au boulot, maintenant c'est minimum légal et on peut pas m'embêter. Bim! C'est le phénomène de ce que les anglo-saxons appellent le quiet quitting, qu'on pourrait traduire en français par la démission silencieuse. Je lis cet article qui est dans le Parisien. Le quiet quitting a envahi les réseaux sociaux. Plus question pour les salariés de se tuer à la tâche. Si le phénomène, surtout viral, reste difficile à évaluer, il souligne les lignes de fracture du monde du travail. Ce matin sur France Info avec David Delost, notre spécialiste économie, on s'interrogeait sur le rapport au travail qui est peut-être en train de changer dans un pays comme la France. Il y a Xeldor qui écrit dans le chat « Hey, c'est mon cas, c'est exactement ce que je fais au boulot. Je suis en plein quiet quitting », me dit Corvax. Au moins ça créera de l'embauche, dit Mickaël Cohen. C'est pas faux. Et puis Cardocon qui dit « Mais c'est normal, ça s'appelle un environnement sain, tout le monde fait ça dans ma boîte et ça se passe très bien. » Eh oui, j'avoue, j'en fais partie, dit 66 à Bigaël, voilà. « C'est mon cas », me dit Karok, « salaire minimum, travail minimum, d'ailleurs je dois y aller. » Excellent. « Moi j'ai jamais rien glandé, anyway », me dit Zenith. « Pourquoi en faire plus quand tu bosses avec des gens qui foutent rien ?» me dit Daddy Swag. « Mon cas également, solidaire, je kiffe. Je kiffe vos commentaires. Je kiffe... » Lisons. Le quiet quitting désigne donc démission silencieuse, quoi. Le ras-le-bol de salariés qui vont se compter de faire le strict minimum au travail. Alors, bah, je ne vous ai pas tout mis en jaune, mais tout est intéressant. Paul, les prénoms ont été modifiés. 45 ans. L'histoire est intéressante. Et c'est une vraie histoire. travaille dans les nouvelles technologies depuis une vingtaine d'années, donc c'est un secteur plutôt intéressant. Ses débuts sur le marché du travail se passent sans problème. Je remplissais les objectifs, les augmentations annuelles suivaient sans avoir à le demander. Ah, mais il a de la chance. Tout le monde était content. Le cercle vertueux, comme il l'appelle, il l'attendait à le trouver dans le poste qu'il occupe jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc il bosse, les résultats sont là, on l'augmente, il ne demande rien, tout va bien. Il arrive à un nouveau poste en 2019. Donc à son arrivée, il s'implique comme d'habitude, persuadé que son employeur, comme d'habitude, va percevoir ses efforts. Et puis il tombe de haut en découvrant son évaluation de fin d'année. Oh, j'ai une note très basse, pas d'augmentation, souvient-il. L'année suivante, même chose, ma note avait remonté, mais pas assez pour m'accorder quelque chose alors que le groupe faisait des gains astronomiques. D'abord décidé à démissionner car le marché du travail porteur lui donne confiance, il finit par se raviser en disant « Démissionner, c'est devoir à nouveau faire ses preuves, surperformer, être précaire durant la période d'essai, à quoi bon » s'interroge-t-il. Après quelques jours de réflexion, il décide que la meilleure solution serait de lever le pied. Fini les mails en dehors des horaires de travail, fini le fignolage des présentations, les déplacements inutiles, les retours tardifs, Paul se tient à ses 7h30 contractuels et a revu ses attentes par rapport à son employeur. Sans le savoir, ce quadragénaire a pratiqué une forme de démission silencieuse, ou « quiet quitting » en anglais. Depuis quelques mois, ce terme connaît un énorme succès sur le réseau social TikTok aux États-Unis, cumulant plusieurs dizaines de millions de vues, en Angleterre aussi, et de manière plus confidentielle en France. Dans les vidéos, des internautes expliquent leur ras-le-bol et leur volonté de se contenter de faire le strict minimum. Ce désinvestissement émotionnel et temporel constitue-t-il un nouveau phénomène à observer sur le marché du travail ? Est-ce la suite logique du mouvement de la grande démission outre-Atlantique parmi les jeunes générations qui n'acceptent plus de travailler dans n'importe quelle condition ? Ou est-ce que c'est une mode sur les réseaux sociaux ? Si pour Paul, cette réaction est intervenue après une déception, elle peut aussi survenir après un coup de fatigue, hein, un genre de burn-out. Sophie, 37 ans, cadre dans un grand groupe de cosmétiques. J'ai senti que je m'épuisais à la tâche pour peu de reconnaissance. Je me suis dit qu'il fallait que je me ménage, que j'arrête de toujours en faire plus parce que ça n'allait pas dans mon intérêt. Terminer donc la bonne élève qui arrive avant tout le monde, qui sacrifie les soirées, les week-ends pour rien laisser au hasard, son travail, son employeur, ne passe plus en premier. La pandémie et le télétravail ont eu des effets là-dessus aussi, dit Adrien Smekmama, qui est à la tête d'un cabinet de recrutement. Beaucoup de salariés se détachent de plus en plus. Un éloignement qui d'ailleurs n'a rien de répréhensible du point de vue du droit du travail. Faire son job, c'est ce qu'on demande aux salariés, analyse un DRH. Voilà. Il ne faut pas leur reprocher de se tenir à leur contrat de travail. Les responsables des ressources humaines ne vont donc pas traquer les déserteurs de l'open space après 18h pour les sanctionner, bah, j'espère bien. Mais cela ne les empêche pas, les DRH, de réfléchir aux manières différentes de remotiver les troupes. Ça passe par plus de reconnaissance, hein, plus de responsabilité, des formations, plus d'argent aussi, même si ce n'est pas toujours d'ailleurs la revendication centrale. Ha 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 ! Intéressant ce mouvement ! D'ailleurs, je suis crevé. Et j'y vais. Allez, bonne fin de journée. Je m'étais engagé sur un... ici, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Alors, vous en pensez quoi de ce mouvement-là ? C'est bien ou pas ? Alors, heureusement que c'est pas répréhensible, dit Monsieur Dodo. Ce qu'il faut éliminer, c'est cette culture du travailler toujours plus pour un salaire équivalent et aucune reconnaissance. Oui, dit les termes, t'as raison. Mais oui, bien sûr, bien sûr. En appelant ça démission silencieuse, est-ce que c'est pas culpabilisant pour les employés ? Je suis d'accord avec vous. C'est pas le bon terme. Démission silencieuse, c'est un peu négatif pour le salarié. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, c'est bon l'eau, en fait. Marrant comme liquide. Tiens, Audrey Pucci. Salut Audrey. Dans mon métier, je me donne à fond, j'ai aucune reconnaissance. Je fais comme Paul. De plus, je fais du télétravail alors que j'aurais pu être en arrêt de travail et on me met la pression pour que je revienne alors que je commence tout juste ma rééducation. C'est chaud Audrey, parce que je connais ce que tu as traversé. Et bien, ton entreprise, je leur dis pas bravo. C'est juste faire son taf. Aucune raison de s'impliquer sans être au capital de la boîte, me dit Daliric. Ok. Bah, vous êtes assez d'accord sur le truc. Hein. On a tous eu un proche d'Xineco qui s'est sacrifié au boulot pour rien. C'est fini cette époque où on mettait tout derrière la conscience professionnelle quand on finissait 2 heures plus tard non payé et qu'on ramenait du boulot à la maison. Alors moi, je suis sur un autre truc en ce moment. Je vois mon petit Malo qui rentre en CP, là. Hein. Et moi, ça me... Alors, c'est peut-être con, hein, c'est naïf, mais je comprends pas qu'on donne des devoirs aux enfants. Les gamins, ils passent toute la journée à l'école. Alors, j'ai rien contre l'éducation nationale et les profs. C'est un des plus beaux métiers du monde et je respecte vachement ça. Et puis, c'est pas eux qui sont, je pense, derrière ce genre de consignes. Mais ils passent toute la journée à l'école. On peut pas les laisser... c'est interdit au CP? Eh ben, c'est pas... C'est interdit sur le papier, alors. Il y a Frodon qui me dit c'est interdit au CP. Mais même au-delà du CP, bordel. Les gamins, ils passent toute la journée à l'école. Ils arrivent à quoi? 8h le matin? Merci Lolover pour le 12e mois. Coucou à toi. Merci pour le 12e mois. Ils passent toute la journée. Ils sont de là de 8h à 17h. Avec la petite pause de midi. Hein, de français, mathématiques et tout le reste. Et ça fait des belles journées quand même. Et le soir, ils n'ont pas le droit un petit peu de... Je sais pas, de s'aérer un peu la tête, de se reposer, de rêver, de jouer. Passer de temps avec le petit frère, avec les parents. Non! Les devoirs, dès le CP, et même après, la journée devrait suffire, enfin. La plupart de nous, salariés, sauf que si on est à fond, bah, le soir, c'est terminé. Le soir. Moi, ça a été le plus grand plaisir dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à bosser. Bon, je bosse un petit peu quand même. Quand j'ai commencé à bosser, c'est débile, hein, c'est le fait que après la journée de travail, c'est terminé. Après la journée de travail, c'est over, quoi. T'as envie de te mater un film, tu te mates un film. T'as envie de manger avec des potes, tu manges avec des potes. T'as envie d'aller faire du sport, tu fais du sport. Putain, les gamins, c'est jamais fini. C'est moi qui suis un peu con, quoi. C'est jamais fini. Tu rentres de ta journée, t'es crevé. T'as dû enregistrer des trucs, comprendre des trucs. Ton cerveau a travaillé non-stop, mémoriser des trucs. Pff, le soir, t'as le droit à un goûter, une demi-heure, et bim, tu repars, quoi. Franchement, non, quoi. J'adore parce que je parle d'éducation. Il y a Yoshiro TV qui a écrit dans le chat en dépensant des points de chaîne. Dans la langue française, Samuel, on ne met pas de guillemets, on met pas de virgule et pas de et. Attends, on met pas de virgule avant un et. Voilà. Et tu en as mis un juste en dessous de ta cam. La matinée tienne, virgule, on lit les journaux, virgule, on en parle ensemble, virgule, et de la vie aussi. Voilà. Et donc j'ai mis une virgule là. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la virgule ou j'en appelle à ma liberté aussi orthographique pour renforcer le et avec ma virgule. J'adore les virgules. Qu'est-ce qu'on fait? Je la laisse. Non mais vraiment sur l'école, je comprends pas moi. Je comprends pas qu'en 2022, les gamins puissent pas un petit peu se reposer après l'école. Tiens, on va faire un sondage là-dessus. Allez, go. Merde, 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 je suis en colère. Je ne comprends pas ça. Laissez-les tranquilles. Laissez-nous aimer. Alors, faut-il supprimer... Jusqu'au terminal. Hein, je dis toute la scolarité. Hein. Faut-il supprimer les devoirs à l'école? Bordel. Hein, la plupart des salariés n'ont pas de devoirs à la maison en rentrant. Bon alors. Donc, on est bien dans une situation extraordinaire, abusive même. Bon. Faut-il supprimer les devoirs à l'école? Je dis jusqu'au bac. Hein. Voilà. Même, d'ailleurs, on supprime les devoirs à l'école, enfin. On supprime les devoirs. Voilà. Oui. Non. Voilà. Je suis tout seul à penser ça ou quoi? Allez, go! Non, on supprime pas l'école. Sir Base qui dit on supprime l'école. Non, c'est cool l'école, mais l'école comme ça, pas l'école où c'est non-stop, quoi. Hey, teacher, leave the kids alone. Merci, il n'y en a pas. Ting, ting, ting. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben en fait, c'est pas le raz-de-marée que j'espérais quand même, ce plaidoyer pro-suppression des devoirs à l'école. Je pensais emmener avec moi une écrasante majorité. En fait, vous êtes quand même pas mal à être pro-devoir. Ah, faut que je lise vos arguments alors, parce que j'ai à côté de la plaque. Regardez. 58% d'entre vous dites « Oui, Sam, tu as raison, supprimons les devoirs à l'école. Bordel, nom de Dieu. » Non. 34%, bordel. Ah, pardon, je suis mal poli, mais quand même, là, je suis surpris. 34%, vous êtes pour les devoirs à l'école, mais sérieux, quoi? Mais sérieux? Je ne sais pas, 8%. Je vous lis. Allez, les pro-devoirs, là, expliquez-moi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Il y a Boîte Régent qui dit, je pense que non, parce que ça prépare mentalement aux études supérieures qui sont impossibles sans un travail autonome, et ça les prépare à la suite. Ouais, travail autonome, ouais. Égoïstique métal. Je sais qu'il y a plein d'enseignants dans le chat, donc je pense que je vais prendre une petite leçon. Il faut diminuer les travaux pour l'école au niveau des enfants, mais les travaux restants doivent impérativement donner de la valeur au travail réalisé. Je suis un ancien prof, j'ai remarqué que beaucoup de collègues mettaient du travail juste pour en mettre sans plus-value à côté. Ok. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais. Vous voyez, on échange et puis je suis en train de réfléchir. Amzerdine, en vrai, je ne sais pas, car les devoirs, ça permet d'apprendre aussi l'autonomie. Ah oui. Ah, d'autant que, argument pour moi, itif, et vous êtes plusieurs à en parler, les devoirs à la maison, c'est une sorte de discrimination, parce que tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents et des proches là, pour les aider, quoi. Je prends une leçon, là, on m'engueule. Une leçon, ça ne s'en prend pas une seule fois, Samuel Etienne, me dit la fille du Père Noël. Voilà. J'ai un autre Blanco, m'engueule aussi. Darkover nous donne l'argument qui tue. J'ai subi les devoirs, donc mon gamin va les subir aussi. Voilà. Mais je sais que tu fais de l'humour. Ok, bon, je suis un dangereux rêveur et révolutionnaire, quoi. Il y a Harlock qui m'engueule même parce qu'il dit que j'ai fait mon plaidoyer avant le sondage. Voilà, je me fais engueuler par tout le monde. Il y a Chouki qui dit, moi, ma maîtresse de CP, elle me tirait les cheveux parce que j'écrivais au crayon à papier. Oh nom de Dieu! Les devoirs sont déjà interdits au CP et au CE1, me dit Ribose. Bon, bah voilà, bah, c'est interdit, mais moi, mon fils, il en a. Ah, merci Chris. Je suis à 100 000 ou 10 000 ou 100 000% d'accord avec toi. À quel moment on trouve ça normal de donner du travail à des gosses qui ont déjà passé toute la journée à emmagasiner des informations? En plus, je ne comprends pas comment les parents font pour jongler avec ça, plus le sport, plus la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Ouais. Attendez-vous, les salariés, vous n'avez pas de travail, vous, à la maison. Hein. Moi, je trouve que la vie active, eh ben, c'est carrément plus cool que l'école. Hein. C'est vachement moins fatigant. En fait, l'école, c'est fait pour qu'après, on se dise, ah, mais en fait, la vie active, c'est cool. Je travaille moins qu'avant et en plus, on me file de la thune. Tiens, il y a Bolomus qui nous dit, merci. Samuel, moi je suis prof, je donne pas de devoir à mes élèves. Dis les termes, Bolomus, ça c'est beau. Mais, Bolomus ajoute, je dois me battre contre les parents qui en réclament, parce que pas de devoir, c'est pas sérieux. Je serai parent d'élève, Bolomus. Dans ta classe, je peux te dire que je te ferai pas chier, moi. Hein. Bon, c'était cool ce débat. J'ai bien aimé. C'était intéressant. Merci. Ah, mais vous m'avez fait réfléchir un petit peu quand même. Le Lover 65, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure, mais je le refais. Il était cool cet échange. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Encore 2-3 articles. Hein. 2h51 de stream. On va se dire encore 2-3 trucs. Puis après, je ferai un raid. Oh, c'est quoi tous ces messages? Ça vous a bien inspiré. Hein. Les devoirs, ça permet aussi aux parents de voir où sont les enfants. Ah là là, les pro-devoirs, c'est fou ça. Ah, les pro-devoirs. Les enfants sont calmes pendant 1 heure le soir grâce aux devoirs. Mais c'est quoi ces arguments? La vie active d'un couple sans enfants, c'est vraiment le paradis. Ah oui. Ah les blagues. Il y a plusieurs personnes qui disent que le prof qui disait qu'il donnait pas de devoirs, c'était un prof de PS. Elle est bonne en vrai. Tu me feras 15 lancers de poids, s'il te plaît. Ce soir à la maison. 15 lancers de poids. Mais j'ai pas de poids, prof. Bah tiens, v'là un poids de. T'es un garçon ou une fille? Je vois pas bien avec les cheveux. T'es un garçon? Bah tiens, prends un poids de 3 kilos et puis tu me feras 15 lancers dans le salon ce soir. Hein? Tu me lances. Un, tu fais tac, sous, hop, ici là, paf, tu pousses bien, comme je t'ai expliqué. Tac, voilà. Voilà. Y a pas de mais. Voilà. Lancer de poids. Tiens, je te prête un javelot. Tiens, tu feras du javelot dans. Tu feras du javelot après la classe, dans la cour de l'école. Mais attends que je sois parti quand même. On sait jamais. Voilà. Excellent. Excellent. Pourquoi différence garçon-fille? Parce qu'au lancer du poids, eh ben, ce n'est pas le même poids. Ça y est, il y a quelqu'un qui essaie de, qui essaie de lancer une grosse polémique sur le genre ou le sexe. Technotrice qui m'interpelle. Ouais, pourquoi la différence garçon-fille? Bah parce qu'à mon époque, je pense pas que c'est beaucoup changé. Et je pense qu'en compétition internationale, c'est toujours le cas. Le poids ne fait pas le même poids. Voilà. Le poids que vous lancez comme ça, il fait pas le même poids. Vérification. Voilà. Direct. Poids. Lancer de poids. Garçon-fille. C'est où le CCDI sur ce truc? J'ai un nouveau clavier. Allez, sans CDI. Alors, lancer de poids. Voilà, hop. Voilà, hop, bim. Ici, on vérifie les infos, là. Quelqu'un vous lance une polémique? Je réponds. Alors, lancer de javelot. Chez les hommes, le javelot pèse 800 grammes. Chez les femmes, 600 grammes. Autre question? Ok. Le lancer de disque, 2 kg chez les hommes, 1 kg chez les femmes. Des questions? Lancer de poids, lancer de marteau. Chez les hommes, 7 kg de... Au nom de Dieu, 4 kg chez les femmes. Voilà. Des questions? Voilà. C'est fou, ça. La polémique, la polémique. Homme-femme, oui, mais pas différent chez les enfants. Si, 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 Chaos. Moi, j'ai fait du lancer de poids en compétition. Et c'est vrai. Pas une vie de con, moi. J'ai fait du lancer de poids en compétition. J'ai fait les championnats départementaux de lancer de poids quand j'étais gamin, parce que j'étais fort. Bah, je peux vous dire que, je sais pas, j'avais 12 ans. Bah, c'était pas le même poids. Alors racontez. Hein. Arrêtez. Ouais, UNSS. Exactement. 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 J'ai été vice-champion départemental de lancer de poids. Voilà. Donc vous parlez à un spécialiste. Donc arrêtez avec vos. J'étais fort lancé de poids. J'étais fort lancé de poids. J'étais le voilà. Voilà. Allez, on a rendu un hommage ensemble à Jean-Luc Godard tout à l'heure parce qu'on a appris ensemble en direct la mort du cinéaste. Voilà, on a vérifié cette info, on a pris le temps, on a été prudent, on a lu des articles. Dans le monde, eh ben, un autre hommage, c'est la journée des hommages à un grand photographe aussi ce matin dans Libération, masterclass de Une de Libé, comme souvent, à William Klein, cet hommage, le plus français des photographes américains, est mort à Paris à 96 ans, évidemment. Très belle une, comme souvent avec Libé, quand Libération rend hommage à une personnalité disparue, et très beau titre, Klein d'œil. Ah, excellent, puisque William Klein. Qui était William Klein ? Libération nous le rappelle très bien, nous montre quelques-uns de ses clichés. C'est un Américain, mais qui était fou amoureux de la France. Il est mort en France, d'ailleurs, je crois. Il vivait en France depuis super longtemps. Je crois qu'il vivait à Paris. C'est un de ses plus célèbres clichés, vous le connaissez peut-être. On est à New York, ici. Il lui a été reproché, d'ailleurs, de montrer un peu l'envers du décor de la société de consommation américaine, en montrant notamment la vie des plus déshérités, les plus pauvres. Là, c'est un cliché à New York. Deux enfants, un pistolet. La violence, parfois, extrêmement présente dans la société américaine. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Un portrait et puis aussi des photos. Voilà, on verra par exemple que Klein a immortalisé Serge Gainsbourg, le chanteur, pour l'album Love on the Beat. On est en 1984. Qui était William Klein? Bah, c'est ici. Installé à Paris dans les années 50, photographe américain, maître du noir et blanc, pionnier de la street photographie, documentariste, cinéaste, il est mort à 96 ans. Vous avez son portrait ici? Ces photos prises au nez, c'était un petit peu son style, photos prises au nez à la barbe des foules qui explosent d'énergie et de violence contenue. Regard sans pleurs, Klein plongeait dans la mêlée, a étreint l'action, a interpellé ses sujets dans un grand éclat de rire, faisant sienne la devise de Robert Capa, si votre photo n'est pas assez bonne, c'est que vous n'êtes pas assez près. Voilà, il allait au plus près de ses sujets. Alors c'est un photographe qui a fait aussi des photos de mode, qui a fait sortir les mannequins des studios, c'était un des premiers à le faire. Voilà, pour les photographies dans la rue, vous avez quelques exemples ici. Grande première à l'époque dans la photo de mode très codifiée, habituellement qui était en studio. Artisan de l'image, Klein en était aussi un de ses critiques, remonté contre la société de consommation, je vous en parlais, contre la mode, contre les médias. William Klein a toujours été un pourfendeur de l'American Dream, de l'argent roi, de l'illusion des images à la fois séduisante mais aussi coercitive. Voilà. Il y a notamment cette très belle photo de Gainsbourg. Je crois que Libération en parle d'ailleurs. Oui, ici. de cette photo de Gainsbourg. William Klein est aux États-Unis, oui, mais français de cœur, américain à Paris, 20 ans après Gershwin. En retour, la France avait adopté ce fumeur de blonde et mâcheur de chewing-gum comme le plus français des photographes américains, c'est bien écrit. Ne lui doit-on pas le frappant portrait de Serge Gainsbourg sur la pochette du disque Love on the Beat? Klein a sublimé Gainsbourg, l'a maquillé, l'a travesti, l'a transformé en superbe vieille pute d'Ecati, je vais encore me faire ban, les oreilles recollées par des morceaux de scotch, cigarillo allumé, du rouge à lèvres et du fard à paupières. C'est cette photo qui est une photo mythique. Non, et puis je vous parlais de son style où il allait au plus près de ses sujets. Hein, c'est le modus operandi dans la rue. Klein alpaguait avec cran ses modèles, les faisait rire, collait l'objectif sous le nez. Il se mêlait aux foules du melting pot pour en saisir les frémissements, même à Harlem où personne ne se risquait à l'époque, surtout pas les blancs. Voilà. Hommage bien plus important. Je vous ai lu qu'un extrait. C'est dans Libération aujourd'hui, avec cette très belle une de Libé. Et je suis sûr que la une de Libé demain sera consacrée à Godard. Peut-être que je vais me tromper, on verra. Vérification demain. Désolé, il y a Camélique qui écrit dans le chat « Mes filles diversifient leur vocabulaire ce matin, ça change. » On n'est pas mercredi pourtant. Il y a des enfants à la maison là ? C'est parce que c'est l'heure du déjeuner, les enfants sont rentrés ? Je suis un peu vulgaire parfois, parce qu'en fait la vie c'est ça, c'est les vrais mots quoi. Et désolé Camélique pour les enfants. Dites-le moi quand il y a des enfants. Salut petite Malouine en sucre. Il y a des enfants. Ah ouais, zut. Pardon. Entre midi et deux, il faudra que je fasse attention. Ok. On finit rapide. Ah, j'avais pas vu ton sub. Merci petite Malouine en sucre. Oh, merci pour le gentil message. Et pour le sub. Alors pour le gros mot sur Gainsbourg, c'est Libération qui le dit, c'est pas Samuel Etienne. Voilà. On finit avec le sport. Bon, un truc sur Mbappé de l'équipe qui nous rappelle que en fait il a pas signé pour 3 ans au PSG, il a signé pour 2 ans plus une option d'une année. Donc du coup, certains commencent déjà à prévoir l'après 2 ans. Ouais, ça va. On a le temps. Non, je voulais surtout vous signaler un match important pour l'OM en Ligue des Champions, c'est ce soir face à l'Eintracht Francfort, 21h, deuxième match de cette phase de groupe après la défaite contre Tottenham, 1-0. Et puis vous avez un autre match aussi en Ligue des Champions pour le PSG, mais ce sera demain contre Maccabi Haïfa. C'est à peu près tout. Et puis horoscope ? Ah ah, vous croyez que j'avais oublié le premier ? Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, il gagne. Mais les enfants, ils ont le droit de jouer aussi. Le droit à se voir lire son horoscope. Du Parisien que je suis en train de chercher. Ah, voilà. On n'y croit pas, c'est des bêtises, l'horoscope, mais ça nous fait rire. C'est un petit jeu ici pour se détendre la tête. Le premier, la première à me donner son signe astrologique. Quand je dis le mot magique horoscope, eh bien, je lui lis. Qui a gagné ses balances ce matin, c'est Nanouk. Qui a été le plus rapide, ça tombe bien, balance. Très longtemps qu'on ne l'avait pas lu, et en plus, c'est le signe de mon papa. Balance, cœur, c'est marqué ici. Je ne triche pas. Ceux qui ont une bonne vue, vous pouvez même lire votre signe. Vous avez de la chance. Allez, rapprochez-vous de l'écran. Pas sûr que ce soit lisible. Balance, cœur. Vos relations gagneront en passion. Et en intensité. Ouh, c'est chaud. Réussite. Vous pourrez bénéficier d'appuis financiers importants ou du soutien de personnes influentes. C'est quoi cet horoscope de malade ? Balancez la fête. Forme, ça va être dingue. Forme, fébrilité. Ah, c'est moins bien. Le cœur, super. Les sous, super. La forme, fébrilité. Voilà. Donc, moi, je serai vous. Restez à la maison. Faites du truc quitting, là, comme on a dit. Restez à la maison. Chill, tranquille. Voilà. Attendez l'amour et l'argent, puisque c'est garanti par l'horoscope du Parisien. Donc, c'est super sérieux. Alors qu'au niveau de la forme, vous êtes un peu fébrile. Je me suis régalé ce matin. Merci. Vraiment, l'aventure à la maison, le chantier en cours, la cuisine en cours de démolition, il y a de la poussière partout dans la maison, les machines à café sont en rade, Solal est parti se réfugier dehors avec la nounou pour respirer autre chose que de la poussière. J'ai une journée de ouf derrière, j'ai une conférence avec des amis de France Télévisions et de Radio France pour un événement peut-être sur Twitch bientôt. Je vois Pierre... un ami qui vient me parler de stream de l'après-midi. Bon, je vais pas beaucoup dormir là. Bah, c'est pas grave, c'est la vie. J'ai des devoirs. Merci pour ce matin, je me suis régalé. On fait un raid, ça vous va? Il n'y a pas d'article sur Alcaraz, Alcaraz, on l'a déjà lu, les articles sur Alcaraz. Merci pour ce matin. Je vous donne rendez-vous. Je suis là tous les jours pendant un mois. C'est dans un mois la prochaine session des questions pour un champion. Tous les jours, sauf le samedi, j'ai promis à mon amoureuse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins, revue de presse, matinée Étienne, même le dimanche. Et le vendredi soir, l'hebdo Étienne. Normalement, je vais peut-être vous annoncer. Oh la vache, il y a Mati qui écrit « Les personnes âgées doivent se reposer de temps en temps, Samuel. » C'est méchant. Normalement, je vais pouvoir vous annoncer ce soir, au plus tard demain, les trois invités de l'Hebdo Étienne de vendredi. Hebdo Étienne numéro 4, trois invités, trois passionnés d'actu pour venir sur l'actu de la semaine. Venez en parler avec moi, puisque vous aurez écouté les matinées Étienne, vous serez super calés. C'est chill, c'est à la maison. Je peux déjà vous dire qu'a priori, il y aura une journaliste de France Info, une journaliste de France Inter, de France 5 et peut-être un journaliste de Libération. Je vous ai rien dit, j'ai un petit peu spoilé, mais c'est parce que je vous aime bien. Je vous mets une petite pause de 2 minutes musicale, histoire de trouver la destination de Red. Proposez-moi maintenant dans le chat des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, des gens qui ont des petites communautés pour l'instant, qui stream, qui font des super belles choses, mais qui n'ont pas encore des grosses audiences. On va leur donner un petit coup de pouce. Une petite musique d'attente de chrono, 2 minutes, petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, et dans 2 minutes, on raid tous ensemble. C'est toujours des moments humainement bien cool. À tout de suite. Alors, ça propose quoi? On reste dans 30 secondes. On reste dans 20 secondes. On reste dans 10 secondes. Merci des propositions, merci de la destination, c'est vous qui avez choisi, c'est vous qui avez proposé, c'est un nom qui est revenu souvent, c'est quelqu'un que j'ai déjà raid, mais dont la communauté mérite de grandir parce que c'est un super travail qu'il fait. On est sur de l'IRL, de la visite, des promenades en extérieur au Japon, s'il vous plaît, raid. Destination Citron Violet, je vous emmène ce matin au Japon. Soyez heureuse, rendez les autres heureux autour de vous, si c'est possible. Et à demain pour la matinée Étienne vers 9h30, 9h45. Ciao, ciao, à plus.